Comment ça, il n'y a plus de son? Comment ça? Qu'est-ce que vous avez fait encore? Mais je vais crever. Il n'y avait pas de son sur le générique? Pas de son en générique, mais on t'entend. Mais attendez, on le refait, il y a du son maintenant. Désolé pour ce faux départ. Désolé. Ça va, il a dit qu'il était désolé, c'est bon, ça va. Pourquoi ça va? Pourquoi c'est pas serré ça? Attendez, j'ai un problème de serrage du micro. Non vas-y là. C'est bon. Ça va? C'est contractuel, vous inquiétez pas. Ouais, non, c'est bon, c'est géré. Ça va? Il n'y a plus rien qui va dans cette baraque. Oh, attendez, attendez, j'ai reçu un commentaire sur YouTube. Sur YouTube, il y a quelqu'un qui a mis un commentaire sous un de mes best-of. Le commentaire, c'est « Je te découvre, et c'est pas une date qui va me marquer. Niveau zéro de l'argumentation, montage à la Jones. Mais mec, t'as vu ton âge? Des blagues de vieux cons sur des sujets que l'on ne maîtrise pas. Ça s'appelle un réac, même avec un t-shirt sale et des lunettes dégueulasses. » C'est dur. Accurate. Oui. Les mots sont dits. Les mots sont dits. Il dit les termes. À un moment, il fallait me le dire. Vous êtes tous là, bien élevés, polis, à me mettre des commentaires un peu gentils parce que vous m'entretenez dans mon délire. Mais il a fallu qu'à un moment, il y en ait un qui prenne la responsabilité de me dire les choses. Il n'y a que la vérité qui blesse. Voilà. Bah du coup, je suis désolé pour mon t-shirt de John et pour mon montage de John. Je suis désolé, hein. Non, ça va, c'est bon, ça va. Ça me fascine toujours, les gens disent ne pas aimer ton contenu, mais prennent le temps de rédiger des commentaires. Ah ouais, non, mais... Alors lui, je lui ai répondu en le trollant, mais d'habitude, je suis à deux doigts de répondre. Bah, c'est gentil d'avoir pris le temps de taper avec ton clavier un message sur un contenu aussi dégueulasse. Bravo pour ton engagement à rendre Internet meilleur. C'est Voilà. Je suis vieux. Non mais c'est gentil du coup. Merci, 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 merci. Merci pour. Alors sinon, bon, le commentaire que j'aime bien mettre, c'est merci pour la qualité de ton commentaire et pour tes recommandations auxquelles je n'hésiterai pas à accorder l'importance qu'elles méritent. Je m'y engage. M'en fous, Palu. J'ai vu que sur le site qui fait la cartographie Twitch, ils ont fait une étude de l'évolution de l'Assemblée nationale de 2012 à 2022, les moyennes d'âge, la parité, les plus actifs, les réseaux, une cartographie sur les liens entre les différents partis. Ah ouais? Très bien. Je savais pas. C'est cool. Faut que je retrouve le lien. Attention aux promesses non tenues. Ah, mais je tiens mes promesses. Si je m'engage à apporter à ton commentaire l'importance qu'il mérite, c'est moi qui évalue le mérite de ton commentaire. Si je lui accorde aucune importance, c'est peut-être qu'il n'en méritait pas beaucoup. Je sais pas. Je verrai. Non, je suis quand même. Est-ce que tu as vu la proposition de loi déposée par les socialistes qui vise à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux? Non, j'ai pas vu. Ils veulent m'empêcher d'influencer les socialistes? Salaud! Salaud les socialistes! PPL, PS, influenceurs. Ils veulent me couper les ailes. Elle est où la proposition? C'est le député PS Arthur Delaporte. Monte ta proposition de loi. Il est où le texte? Bon, j'ai un article de Libé, ça vous va? De la porte d'émission. C'est encore un coup de la gauche. Ah bah on peut plus rien dire, hein. On peut plus influencer. Est-ce que tu es content de l'évolution de la cagnotte ou est-ce que c'est chaud? Je suis très content de l'évolution de la cagnotte. Merci à vous. Merci à vous. Vraiment. Il y a déjà 52 000 euros dans la cagnotte, sachant qu'il y a que, y a un peu moins de 2 000 personnes qui ont donné. Donc merci beaucoup. Ça va avancer, ça va augmenter. Ce sera mieux quand vous, ça montera quand vous verrez l'émission. Quand vos petits yeux comme ça, ils seront tout éclatés avec plein d'étoiles en disant Waouh, comment elle claque l'émission! Oh sa mère! Voilà. Donc voilà, merci aux donateurs, merci à vous. Il n'y a même pas encore de contrepartie, il y a déjà 52 000 balles et tout, donc merci à vous. Vous êtes incroyables. Est-ce que la cagnotte continue durant l'émission? Oui, la cagnotte, alors elle va avoir une date de fin qu'on est encore en train de déterminer, ce sera probablement jusqu'à la fin du mois de février, on verra. Parce qu'il faut qu'on touche l'argent à un moment hein, pour payer les factures, mais moi je veux que vous voyez l'émission que vous payez. Donc s'il y en a qui hésitent encore avant de faire un don, c'est normal, il n'y a aucun problème, vous allez voir l'émission, et comme ça vous pourrez vous faire un avis sur pièce. Voilà. Ça représente quoi la cagnotte en haut? Ça représente le financement participatif auquel tu peux participer avec ta meilleure carte bleue pour financer l'émission Backseat qui revient bientôt, toutes les semaines, tout ça, tout ça. N'hésite pas, point d'exclamation Backseat, tu cliques sur le lien, tu dégaines ta meilleure CB, tu fais payer tes parents, tes oncles, tes tantes, le chèque que ta mamie elle t'a mis dans une petite enveloppe pour Noël, hop. Et comme ça, tu t'offres le plus beau des cadeaux de Noël. C'est une émission d'actualité politique sur Twitch tous les jeudis soirs, jusqu'à l'été. La première est quand? Alors, on est en train de bosser dessus. Si tout se passe bien, mais ce sera annoncé sur les réseaux sociaux, on va faire une pré-rentrée. C'est comme à l'école. On va faire une pré-rentrée, on va faire une émission Backseat la semaine prochaine, si tout se passe bien. Qui sera pas sur le plateau définitif parce qu'on attend encore le desk, etc. Mais ce sera pour se retrouver déjà, parce que j'ai trop hâte. Pour retrouver les chroniqueurs et les chroniqueuses, pour vous montrer des surprises. Voilà, donc ce sera sur un espèce de plateau provisoire. On fait la pré-rentrée. Les élèves rencontrent les profs. On va vous dire à quelle sauce vous allez être mangé cette année. On va discuter avec vous. On va parler d'actu politique parce que putain, on a plein de trucs à se dire avec les chroniqueurs et les chroniqueuses. Voilà. Et donc la vraie première, ce sera la semaine suivante si tout se passe bien. Encore une fois, je ne veux pas prendre trop d'engagement, mais normalement. Voilà. Avec public. Non, du coup, la pré-rentrée se fera sans public. Voilà. Une émission pilote comme des pros. C'est une sorte de pilote. Oui, je te cache pas que ça nous sert nous aussi à nous tester et tout. On a quand même pas mal de boulot et de réglages à faire. Donc c'est ce que j'ai dit aux équipes. S'il y a des problèmes de réglage de caméra et tout, je veux bien que ça arrive sur la pré-rentrée. C'est normal, ça sert à ça. Par contre, l'émission suivante, je veux que ce soit pixel perfect. Que les gens, ils en aient pour leur pognon. Voilà. Quels seront les horaires habituels de Backseat? 19h à 22h. 3 heures d'émission. Vous vous rendez compte quand même? 3 heures d'émission tous les jeudis. Rien que pour vous. Je me pose une question, est-ce que l'émission sera toujours hebdo? C'est le but. C'est le but du jeu. C'est de réussir à vous produire une émission de ouf toutes les semaines. Est-ce que le générique de Backseat aura du son? Si vous êtes sage. C'était plus court avant. Avant, ça faisait 2 heures et demie. Hein. Avant, ce sera 2 heures. Avant, c'était 2 heures et demie. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, l'émission commençait à 19h30 et finissait à 22h. Et on faisait un before de 19h à 19h30 de temps en temps. Donc il y avait certaines émissions qui étaient plus longues parce qu'on avait un partenaire, on faisait un before, c'était l'occasion d'avoir des sponsors qui du coup participaient au financement de l'émission et de vous proposer un before, 30 minutes de rab avec un contenu un peu différent avant de commencer l'émission. Le problème c'est comme on faisait un before une fois de temps en temps, bah, du coup on avait des horaires de début d'émission qui changeaient en fonction des émissions, c'était chiant. C'était chiant parce que du coup, c'est normal, hein, les gens ne comprenaient pas, le public disait, mais je comprends pas pourquoi c'est 19h cette semaine, avant c'était 19h30, machin et tout. Et donc du coup, là, ce qu'on va faire cette année, c'est qu'il y aura des before à toutes les émissions. Même quand il n'y a pas de partenaire, c'est pas grave. Je ferai un before, je serai tout seul avec vous, face cam, on discutera. Ce sera aussi peut-être l'occasion de faire des before auto-sponsorisés, enfin voilà, pour vous présenter des gens, des assos, des documentaires, j'en sais rien, on verra. Mais voilà, comme ça commencera tous les jeudis à 19h et ça commencera par une demi-heure de chauffe tranquille. Le temps que vous arriviez, le temps que vous vous installiez confortablement sous votre couette, le temps que vous vous fassiez couler un café, que vous commandiez des sushis, enfin vous démerdez, mais voilà. Et à 19h30, générique, début de l'émission pour 2h30, etc. Voilà. Un before avec les techos. En vrai, moi je suis chaud, hein. Je suis chaud pour que le before, ça serve aussi à vous présenter les coulisses, vous présenter l'équipe, vous montrer la régie. Moi je suis chaud, hein. Franchement, grave. Merci Fraise pour ton abonnement. Merci à toutes et à tous pour vos subs et vos resubs. Merci pour votre soutien. Merci. Donc voilà, il y aura un meublage du meublage. Ouais. Et il y aura aussi à nouveau des before. Il y aura aussi des sponsors cette année. Comme je vous l'ai dit, je ne veux pas que le financement de Backseat ne repose que sur vos épaules à vous. Je veux qu'on aille aussi chercher de l'argent auprès de sponsors, de partenaires qui participeront eux aussi au financement de l'émission via des before sponsorisés, du coup, des placements de produits. Je vous expliquerai ce que c'est qu'un VPN. Vous n'avez toujours pas compris. Donc voilà. Est-ce que c'est possible d'avoir des subventions région, ville? Non, c'est galère. C'est très très galère, à part le CNC. Le problème, c'est que les collectivités locales, les régions et les communes, elles donnent de l'argent à des projets qui ont une utilité pour leurs habitants, pour leurs administrés, c'est normal. Sauf que moi, je peux pas dire à la région Bretagne que je peux pas dire combien il y a de Bretons qui regardent l'émission, j'en sais rien. Et puis mon émission, elle est diffusée sur Internet, donc pour le monde entier, donc c'est voilà. Enfin, je dis ça, mais en vrai, on peut trouver aussi un deal avec une collectivité locale pour un sujet particulier et tout. Pourquoi pas? Moi, je veux fermer la porte à rien. Sponsor par un producteur de siège arrière. Tu rigoles, mais si un jour on fait un sponsor pour avoir une couverture de siège arrière de bagnole sponsorisé Backseat, moi, ça me fait trop marrer. Hein. Je suis chaud. Donc voilà, donc on verra, donc on va chercher des sponsors, on va chercher. En plus c'est cool, on en a déjà qui nous ont déjà contactés pour dire ah nous ça peut nous intéresser, faut qu'on discute et tout. Donc voilà, donc on verra. Et plus il y en a, mieux c'est. Plus il y en a, ça veut dire plus il y a d'argent, moins vous avez besoin d'en dépenser. Est-ce que Samuel Etienne change la donne, vu qu'il fait des sponsors de musées, etc.? Bah oui, Samuel Etienne, il participe à changer la donne de chez. C'est très bien, c'est très cool. Mais c'est pas le premier à l'avoir fait. Hein. Tu sais, les sponsors de musées, il y a déjà des youtubeurs qui l'ont fait et tout. Ça marche de mieux en mieux. C'est vrai qu'en matière de sponsoring sur les réseaux sociaux, le monde de la vulgarisation a toujours été un peu en retard par rapport à d'autres genres. Et c'est normal. Il y a des sponsorings depuis très longtemps sur les réseaux sociaux, sur du gaming, sur du lifestyle, sur des produits de beauté, sur du sport, sur de la culture, sur des trucs comme ça. Et c'est vrai que les institutions, genre les laboratoires de recherche, les musées, les institutions, etc., bah c'est un peu des vieux. C'est pas les plus innovants du monde en matière de com, donc c'est pas les premiers à avoir débarqué sur les réseaux sociaux. Mais petit à petit, on fait bouger les choses. Samuel fait bouger les choses et c'est trop cool. Moi, je fais bouger les choses depuis des années. La plupart du temps, c'était moi le premier influenceur avec qui les institutions ont bossé. J'ai essuyé les plâtres, la Cour des comptes, la Caisse des dépôts, le Sénat, les ministères, j'en ai fait plusieurs. Mairie de Paris. Non, Mairie de Paris, on avait déjà fait avant moi. Les universités et tout. Enfin, ça fait 7 ans que je fais des partenariats et la plupart du temps. Je dois expliquer à des gens ce que c'est que Twitch. Des gens de la com comme ça qui me regardent avec leur costard qui font mais ils ont l'habitude de faire des fascicules papier pour faire de la com. Et moi je leur explique sur le. Enfin bref. Donc voilà, donc c'est cool, donc ça avance. Après, les labos, ils ont aucun intérêt à sponsoriser des trucs en vrai. Ça dépend. Ça dépend. Il y a des laboratoires qui touchent des financements publics ou privés pour leur recherche, et dans leur financement, il est prévu une ligne budgétaire pour la communication autour de la recherche. Donc le laboratoire, il doit communiquer, donc il doit chercher des... Voilà. Donc oui, ça existe, hein. Mais c'est très bien, tant mieux. Sans être un gros sponsor, quelle serait une première étape de participation pour un petit partenariat, s'il te plaît? As-tu pensé à un format pour les professions libérales sympathisant, mais pas avec des moyens de grosse tech? Je sais pas, envoie-moi un mail, hein, je sais pas quoi te dire, mais ça coûte le prix d'un sponsor, hein. Ça coûte un peu. Bah, rappelez-vous, on avait fait le sponsor avec la Fédération des notaires, et typiquement, les fédérations professionnelles, c'est un bon exemple de sponsor. C'est un bon exemple. Fédération professionnelle qui essaye de parler aux jeunes pour leur dire venez faire les métiers de notre secteur d'activité. Moi, je trouve ça cool. Vas-y. On vous en dit plus sur les métiers, sur le secteur économique, sur ses opportunités, etc. Ses spécificités, machin. Bah voilà, c'est très très bonne idée de sponsor. Let's go. Tu feras une sponsor avec le SNU? Non. Non, non, je veux pas faire des sponsors avec des dispositifs gouvernementaux, ça me saoule. J'ai pas envie. C'est pas. Ça m'intéresse pas. Enfin, oui, il y a des exceptions. Erasmus, tu vois, oui, je veux bien faire un sponsor Erasmus, à la limite, why not? D'ailleurs, je l'avais déjà fait. Devenez comptable. Bah, tu déconnes, mais la Fédération des comptables, s'ils veulent faire un sponsor, moi, why not, hein, moi, ouais, pourquoi pas? Les métiers de la comptabilité. Ils vont nous dire, on embauche tel genre de profil, il y a tel type d'études, n'hésitez pas à vous renseigner, on a un site internet, machin. Let's go. Le service civique? Ouais, si le service civique, je suis chaud. Mais bon, c'est parce que je défends le service civique depuis sa création, donc c'est un peu spécial. La barrière, elle est là. Le service civique, oui, le SNU, non. Voilà. Faut trop faire un truc avec les meufs dans la tech. Oui, ça arrive bientôt d'ailleurs, je vais faire une émission sur le sujet bientôt. C'est pas un sponsor du Backseat, mais c'est autre chose. Mais tu vas. Oui. Mais carrément, enfin, tu vois, féminisation, c'est un très bon exemple. Féminisation des métiers de la tech, super bon exemple. Les écoles d'ingénieurs, etc., s'ils veulent faire un sponsor pour essayer d'inciter les meufs à faire des études d'ingénierie et tout, parce qu'il y a encore trop de mecs dans ces filières-là, let's go. Hein, moi, je suis trop chaud pour faire un sponsor pour parler de ça. Allons-y. Bon, après, vous êtes quand même une majorité de garçons. C'est un peu le festival de la saucisse. Donc, c'est peut-être pas l'endroit où on touchera le plus de meufs, mais moi, je trouve ça bien, quoi. Après, il faut qu'ils aient du pognon. Et si l'armée t'approche pour la féminisation des métiers de l'armée? J'en sais rien. Je m'engage.fr. Est-ce que j'ai envie de faire un sponsor? Je m'engage.fr. Je sais pas. Le problème. En fait, l'armée, c'est un sujet qui m'intéresse pour le traiter sous forme d'actualité, tu vois. Je serais trop chaud pour interviewer le chef d'état-major des armées. J'ai plein de questions à lui poser. C'est hyper intéressant. Et ça peut faire partie de l'interview qui nous parle du recrutement et tout s'il veut, mais en termes de sponsor, ça m'intéresse moins. Trop de mecs, on va rester sur pas assez de femmes, non? Oui, non, pas assez de femmes. Ah non, 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 je dis pas qu'il y a trop de mecs, enfin je dis qu'il y a pas assez de femmes, bref. Tu vois ce que je veux dire, quoi, le ratio est pas bon. On va pas faire de la pub pour dire aux hommes, arrêtez de faire des métiers de la tech. Non, c'est pas le but. Et puis pousser les mecs vers des métiers féminins. Ah bah carrément, oui, non mais bien sûr. Bah regarde, il y a des métiers qui vont embaucher de ouf dans les prochaines années, c'est les métiers du service à la personne. Le vieillissement de la population, les maladies chroniques, ça va embaucher à tour de bras les métiers du care, comme on dit. On va avoir besoin de plus en plus de métiers, et c'est vrai que c'est historiquement des métiers qui sont plutôt féminins. Et là, ça va embaucher à balle, bah, c'est peut-être le moment pour des mecs de se dire, bah ouais, moi aussi je peux être auxiliaire de vie, quoi. Genre ouais, c'est un métier, un mec peut très bien être auxiliaire de vie. Donc voilà. Les gens font aussi ce qu'ils veulent. Ah, mais les gens font absolument ce qu'ils veulent. Si on peut les inciter à faire des trucs, enfin tu vois, on va pas s'empêcher d'inciter les gens à regarder vers des opportunités auxquelles ils n'avaient pas pensé sous prétexte que chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Mais si vous ne supportez pas l'idée qu'on vous suggère des métiers auxquels vous n'aviez pas pensé, n'hésitez surtout pas à ne pas regarder le Before the Backseat. Hein. Savoir vraiment, je ne veux pas que ce soit désagréable pour vous. Hein. Le mec trop énervé, il tombe sur un Before. Ouais, devenez agriculteur. Ah non, ah non, c'est. Oh, oh non! Oh, je déteste Backseat. Tiens, je vais mettre un commentaire. C'est intolérable. Votre émission de Jones avec ton t-shirt sale. C'est quand Backseat, je débarque. C'est quand tu auras fait un don pour financer. Ça arrive bientôt. Si tout se passe bien dès la semaine prochaine. Faut voir comment c'est payé aussi auxiliaire de vie. Ah, c'est pas très bien payé, hein. Malheureusement. On attend que toi. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais pas pourquoi on parlait de ça. On parlait de... Ah oui, parce qu'on parlait des Before, des sponsors, de Backseat, tout ça. Parce que vous avez commencé à me poser des questions sur Backseat. Moi, je suis content de vous parler de Backseat. En ce moment, je bosse que à ça. On fait des réunions et des calls et des rendez-vous toute la journée. Donc, ce sera qui les chroniqueurs de Backseat? Ah bah, tu vas voir! Comment ça se passe l'émission? J'ai jamais vu. N'hésite pas à aller regarder sur YouTube, sur la chaîne YouTube de Backseat, les émissions de la première saison. Tu verras à quoi ça ressemble. Et ce sera sensiblement la même chose, mais en mieux, en encore plus mieux. Est-ce que la première de Backseat est sponsorisée? Mais tu verras! Mais vous verrez! Gardez-vous un peu de suspense. Usul seulement une semaine sur deux, c'est dommage, il va me manquer. Je suis sûr que tu es capable de passer outre. Je suis sûr que tu vas y arriver. Est-ce qu'il y aurait une vachette sur le plateau? Usul en garde alternée. Ouais, on se le partage avec Blast. Je vais regarder aussi Backseat, mais sans aucun jugement de ma part. Est-ce que c'est très marqué gauche bien pensante ou pas du tout? C'est à toi de le décider. C'est toi qui décides. C'est pas moi. C'est pas. C'est toi qui vas. C'est toi qui vois. Mais d'une manière générale, va falloir vous faire à l'idée que sur Backseat, vous allez entendre des opinions qui ne sont pas les vôtres. Hein. Qui que vous soyez, je ne sais pas quelles sont vos opinions, mais va y avoir des opinions qui ne sont pas les vôtres qui vont s'exprimer. Falloir faire avec. Si vraiment, ça peut arriver, hein, mais si vraiment vous ne voulez entendre que vos propres opinions, il n'y a aucun problème. Vous trouverez sur Internet un nombre incalculable de contenus qui sont faits pour vous, qui sont marketés pour vous, qui ne vont que dans votre sens et tout. Il y en a plein et c'est comme ça, c'est le métier de l'influence, de l'économie de l'attention, etc. Vous inquiétez pas, les bulles de filtre et tout, ça marche très bien. Voilà. Tu veux dire des gens qui ont tort? Oui, c'est ça. Des gens qui sont dans l'erreur. Mais c'est pas parce que il va y avoir plusieurs opinions qui vont s'exprimer que toutes les opinions sont les bienvenues non plus. Attention. Justement, ça va être intéressant d'avoir un avis qui n'est pas le nôtre. Il faut être à l'écoute de tout. C'est un peu l'esprit de Backseat. Mais il y en a qui détestent ça. Hein. Je peux le comprendre. Hein. Backseat ne peut pas plaire à tout le monde, hein, ça, je le sais très bien, il n'y a pas de problème, c'est normal. Et Backseat ne peut pas plaire à tout le monde. J'essaye d'être le plus honnête avec vous sur c'est quoi la proposition. Comme ça, vous êtes prévenu à l'avance. Les gens qui regardent Backseat et qui détestent l'émission, je leur dis, je suis désolé, moi je t'ai toujours présenté l'émission comme ça, je suis désolé si tu t'es projeté autre chose dessus, si tu croyais que ça allait être autre chose. Non, non, ouais, désolé. Voilà. Quittons-nous, bons amis. On va pas se faire la gueule, c'est dommage. C'est toujours Backseat, ça va pas passer à Backset. Pourquoi je rigole, elle est pas drôle. Ça me dérange pas qu'il y ait pas moins d'opinions, mais ce que je recherche, c'est d'avoir des confrontations d'opinions du genre Usul qui détruit un droit d'art. Alors ça, pareil, hein. les demeurés usuliens pratiquants qui pensent que Usul est un clasheur de plateau, vous allez être déçus. Vous allez vraiment être déçus. Hein. Je vous le dis encore une fois, je te le dis par avance, tu vas être déçu. Si tu attends de voir sur Backseat un espèce d'équivalent de CNews, de TPMP, de débat, de clash, etc., tu vas être déçu. Si c'est ce que tu souhaites, si c'est ce que tu aimes, Backseat va pas répondre à cette demande-là. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Va falloir que tu te fasses à l'idée. Backseat, Usul n'est pas un vulgaire clasheur de plateau. Même pas une fois avec genre un combat de catch scénarisé. Mais non, mais faites-le. Comme a dit un grand homme un jour, faites mieux. Voilà, faites mieux. Si c'est ce dont vous rêvez, lancez-vous dans la production d'une émission de clash. Voilà. Allez-y. Just do it. Moi, je vais pas la regarder, ça va me saouler. Je vais, voilà. Beaucoup. Enfin bon. Non, mais en plus, vous allez pouvoir la financer parce que c'est une vraie demande. Hein. C'est une vraie, vraie demande. La satisfaction, comment dire, cathartique de l'éclatage de tronches politiques, c'est un truc qui marche très très bien aux États-Unis. Il y a des contenus intégralement faits pour ça. Les réseaux sociaux américains sont très intéressants. Il y a des chaînes YouTube qui sont consacrées qu'à ça. T'as l'alt-right et la gauche, etc. T'en as plusieurs dont le seul but, c'est de satisfaire cette espèce de riot porn dialectique. Pour regarder des gens péter des gueules, des gros clashs et tout. En France, il y a des comptes Twitter, il y a des comptes TikTok, il y a des stories Insta qui font que ça, qui font que des découpages d'émissions. Bah, c'est notamment Éric Zemmour qui a cartonné là-dessus. Rappelez-vous, Éric Zemmour, ses partisans avaient même créé un site internet sur lequel on avait tous ses passages télé depuis 20 ans et on pouvait aller chercher dedans les meilleurs clashs de Zemmour. Il y a des gens qui ont fait des compilations des meilleurs clashs de Zemmour et ça servait à galvaniser les troupes zémouriennes pour voir les meilleurs clashs, les meilleures réparties et tout. Et avec ce côté un peu cathartique de mon champion Zemmour qui casse des dents, quoi. Donc voilà, donc allez-y, si c'est votre truc, moi c'est pas le mien, donc j'en suis désolé, j'ai pas envie de vous montrer ça, j'ai pas envie de produire ça, mais si c'est votre truc, faites-le, hein, y a aucun problème. Internet c'est grand, il y a de la place pour tout le monde. Il y a aussi ça avec Poutou. Ouais, il y a aussi ça avec Poutou, le célèbre débat de 2017 où il fait une diatribe contre Fillon est resté dans les annales et encore aujourd'hui vu comme un totem par plein de gens. Et c'est encore cet effet cathartique qui est recherché. Où est-ce qu'on peut faire un don à Backseat? Regarde, tu fais point d'exclamation Backseat. Bah tiens, regarde, tu cliques sur le lien là. utip.io/JeanMassier et c'est là que ça se passe. Frag movie d'Asselineau. D'ailleurs, faut toujours qu'on fasse la frag movie de François Hollande. Hein. Je l'ai pas oublié. Hein. Je l'ai pas oublié. Une fois qu'il y a un coup d'éclat, un clash, il reste quoi derrière? Comme si, comme tu l'as si bien dit, Extinction Rébellion, dernière rénov, à quoi bon? Ouais, j'y suis allé un peu fort, je trouve, sur Extinction Rébellion. J'ai clashé Extinction Rebellion sur Twitter, c'était pas mon tweet le plus smart. Pareil, je devais avoir un compte à régler. J'ai rien spécialement contre les militants d'Extinction Rebellion. Mais chacun son militantisme, chacun son type d'engagement. Voilà. Faut pas juste être surpris de l'absence de résultats et des burn-out militants quand on se condamne soi-même. Comment ça, tu fais du clash toi aussi? Bah, j'essaie de me retenir, mais c'est vrai que parfois sur Twitter, mais je me déteste hein, quand je fais ça. Je me déteste quand je fais ça. Je m'aime pas. Je fais des tweets salés, je règle des comptes et tout. Et à chaque fois, je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? C'est nul. Je joue au jeu de Twitter que j'ai toujours détesté. Je suis ma propre caricature, ça m'énerve. C'est avant ou après le café du matin? En général, c'est avant le café du matin. Mais ça, je le sais, il faut pas que je tweete le matin. T'en connais personnellement des militants d'Extinction Rébellion qui ont ruiné leur life? Ah oui. Ah oui, j'en ai vu, hein. Les militants d'Extinction Rébellion qui avaient 18 ans en 2018, ils en ont 22 aujourd'hui. Il y en a certains, ils sont à ramasser la petite cuillère, hein. Un petit shitpost sur Twitter, ça quel plaisir. Mais non, mais le shitpost, c'est nul. Cette espèce de petit tacle sur Twitter, régler des comptes, mettre des tartes dans la gueule des gens et tout. Ça me saoule. C'est quoi Extinction Rébellion? Extinction Rébellion est un mouvement d'activisme écolo qui a été créé dans la vague du mouvement climat en 2018, dans ces années-là à peu près, et qui visait à faire des opérations coup de poing de blocage et de perturbation de l'espace public pour attirer l'attention sur de désobéissance civile surtout, pour attirer l'attention sur le changement climatique et faire bouger les pouvoirs publics. Voilà. Pourquoi tu parles au passé? Ah, ça existe toujours. Non, non, mais ça existe toujours. C'est vrai qu'on en entend moins parler maintenant d'Extinction Rébellion. C'est juste pour ça. C'est qu'il y a une époque, ils étaient très présents médiatiquement. Aujourd'hui, ils le sont un peu moins. Notamment parce qu'ils ont été concurrencés sur leur propre terrain par d'autres organisations qui sont allées encore plus loin dans la radicalité. Il y a Just Stop Oil, ceux qui se sont rendus célèbres en balançant de la peinture ou de la soupe sur des ou de la sauce tomate sur des tableaux, sur des œuvres d'art dans des musées. Il y a Dernière Rénovation qui est en France, qui font, vous savez, le collage de mains sur le bitume pour bloquer la circulation. Enfin, voilà, il y en a d'autres qui ont repris l'idée d'Extinction Rébellion et qui l'ont, voilà. Tu penses que c'est le bon créneau? En fait, c'est pour ça que mes tweets étaient un peu trop salés, je trouve, parce que en fait, c'est une question de c'est quoi l'objectif qu'on se fixe. C'est pour ça qu'en fait, j'ai pas grand-chose à dire sur les actions des. Ah, moi, il y a des actions avec lesquelles je serais jamais d'accord, c'est la violence. Bon, il se trouve que là, pour le coup, c'est non violent, donc voilà, j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est quoi l'objectif, quoi? Et je trouve que parfois, le militantisme en ligne, le militantisme qui consiste à alpaguer l'opinion publique. Parfois je trouve des défauts de narcissisme, où la quantité de likes, de retweets et tout devient la mesure du succès de la campagne. Et moi j'en ai vu, hein, des campagnes en ligne pour le climat, qui consistaient à avoir un maximum de vidéos YouTube, un maximum de retweets et tout. Je me dis, ok, enfin c'est de la merde. Ça, enfin, en tout cas, attention, c'est de la merde. Pardon. C'est pas le genre de truc dans lequel moi j'ai envie d'aller. Donc c'est pour ça que je fais gaffe à ce que je dis. Il y a des gens pour qui c'est leur manière de s'engager et c'est très bien pour eux. Aucun problème. Allez-y. Voilà. Enfin, mais soyons lucides sur la réussite, sur les succès, sur les objectifs de cible de campagne, quoi. Si ton but c'est de faire un maximum de retweets et que tu fais beaucoup de retweets, alors bravo, c'est un succès. Si ton but c'est de peser sur les décisions publiques, je suis pas sûr que ton nombre de retweets marche, tu vois. Je trouve pour le coup que le procès du siècle est plus utile. L'idée de faire, d'utiliser la justice pour condamner, etc. Mais ça demande un travail juridique. C'est ça qui est. C'est là qu'en fait derrière l'aspect, il y a une pétition à 2 millions de signatures. En fait, t'as un boulot long et difficile. Et discret, hein, d'activistes qui passent un temps fou en réunion sur des tableurs Excel pour écrire des textes, pour produire des plaintes contre l'inaction du gouvernement. Mais après, moi, encore une fois, c'est une question de parcours personnel. Moi, je viens de l'engagement associatif. Donc, c'est vrai que l'agit-prop et l'activisme en ligne, ça n'a jamais été mon truc parce que ça a jamais, je ne suis jamais passé par cette école-là. Donc c'est pour ça que je le regarde de travers, quoi. Et c'est donc faut aussi que je prenne de la distance par rapport à moi-même, que je me dise juste que bah, chacun a sa méthode d'engagement. Moi, ma méthode d'engagement, c'est quand j'étais engagé dans l'associatif, c'était de passer des week-ends entiers en réunion à monter des projets, et écrire des textes, des argumentaires et à peser, etc. Il y en a d'autres, c'est de passer leur week-end à faire de l'activisme. Et bah très bien, chacun son truc. Et c'est complémentaire et chacun va. Voilà. Est-ce qu'il y aurait eu la Convention citoyenne sans et l'affaire du siècle et les grands engagements plus radicaux? J'en sais rien, je sais pas. Et sinon, toi, ça va? Ah, mais moi, ça va très bien, oui, toi. Gens qui essayent de faire du politiquement correct pour éviter une autre division. Ah, c'est pas du politiquement correct. En quoi c'est politiquement correct? Enfin, je sais pas. Peut-être vis-à-vis de toi. C'est quoi ton politiquement incorrect? Ça va au KLM. Je fais partie de ceux qui ont toujours du mal quand les bobos parlent au nom des autres. Et c'est ce que fait Dernière Rénovation depuis peu en faisant genre de lutter au nom des ZUP qui habitent dans des passoires thermiques. Mais c'est-à-dire? Parce que je suis pas sûr qu'ils parlent au nom des gens. Est-ce que tu as nécessairement besoin de partager la conviction, de partager la condition des personnes dont tu partages les combats? Oui, je sais pas. Peut-on être un homme et féministe? Allez, on relance le débat. J'avoue, on change de sujet. Ah bah on peut si tu veux. Comment se passe la campagne de financement de Baxit? Est-ce que tu es content? Oui, je suis très content, merci à vous, ça se passe trop bien, je suis trop content. Et ça va encore s'améliorer, vous allez voir. Les modos en PLS. Mais non, mais ils vont très bien, les modos. Je viens de recevoir un petit je te quitte. Quoi de mieux que de regarder le live de Jean? Oh non, merde, désolé. Finalement, est-ce que le premier hypocrite de l'histoire, c'était pas un certain Karl Marx? L'espèce de chercheur surdiplômé là qui prend la défense du prolétariat. Je prends pour qui lui? Il a jamais été à l'usine. Et Friedrich Engels, je vous en parle même pas. Hein. Lui, il était carrément fils de patron, il a été contremaître, je crois, dans une usine et tout. Non, non, il y a. Puis on peut parler de Robespierre aussi. Robespierre, il était avocat. Le tiers-état. Eh oh, ça va. Hein, les bobos parisiens, là. D'ailleurs, puisqu'on en parle, attendez, faut que je vous le retrouve, il y a un bouquin là-dessus. Hop, histoire de la gauche caviar. Donc là, ce dont on est en train de parler, c'est ce qu'on appelle la gauche caviar. La gauche caviar, c'est une expression qui dénonce l'hypocrisie suspectée de personnes qui mangent du caviar tout en ayant des idées de gauche, en défendant des idées de gauche et en votant à gauche. C'était ça qu'on appelait la gauche caviar. J'en parle au passé parce que j'ai l'impression que ça a un peu disparu. Maintenant, on a inventé le mot bobo, qui désigne à peu près le même truc, quoi, dans l'idée. Et donc Laurent Geoffrin, qui est un peu le pape de la gauche caviar en France, qui était rédacteur en chef, directeur de Libération, directeur du Nouvel Obs, etc., a écrit un livre qui s'appelle Histoire de la gauche caviar, et qui raconte tout ça, qui raconte cette histoire-là. Il refait une histoire de la gauche, en disant que, à toutes les époques, il y a toujours eu des bourgeois dans l'histoire de la gauche, qui ont toujours été tenus par des contradictions, etc. Donc voilà, donc Laurent Geoffrin qui d'ailleurs rigole lui-même de sa propre situation en disant en disant qu'il est lui-même un bon représentant de ce qu'on peut appeler la gauche caviar, écrit un livre entier. Il a fait un travail de recherche dessus et c'est assez intéressant. Voilà. Les députés du tiers-État n'étaient pas vraiment des gens du tiers-État en 1789. Ernesto Che Guevara était médecin. Staline, lui, c'était un vrai prolo, par contre. Hein. Fidel Castro, il était avocat. Fidel Castro était avocat, ouais. Ouais. Après être privilégié et défendre les intérêts de ceux qui le sont moins, je trouve pas ça aberrant. Ah, ben ça, c'est un débat. C'est un débat. Jésus était charpentier. Un vrai gars de gauche, oui. Jésus, il était charpentier, il est né dans une étable. Alors, aucune leçon à recevoir. Quoi, les icônes de la gauche ne sont pas issues du prolétariat, tout fout le camp. Bref, alors attendez, parce que du coup j'avais un article à lire avec vous. Donc il y a une proposition de loi qui a été déposée par un député socialiste pour encadrer le travail des influenceurs. Attention, parce que vous en tant qu'influencé et moi en tant qu'influenceur, on est tous concernés. Donc soyez sages, attention, on va lire cet article. Hop. Influx voleur. Le député PS Arthur Delaporte veut réguler les publicités sur les réseaux sociaux. T'es passé de Marx à Engels et Geoffrin, mais sérieusement, lire et comprendre, t'as rien pigé. Bah, lis le livre, tu verras, il est bien. Le texte du socialiste, qui devrait être examiné le 9 février, prévoit l'interdiction de publicité pour les produits pharmaceutiques, les actes de chirurgie et les placements financiers entraînant des risques de perte pour le consommateur. Ah, intéressant. Jamais 203, après celle de l'écologiste Aurélien Trouvé. Et celle des insoumis Nadège Abomongoli et François Piquemal, voilà qu'une autre proposition de loi visant à lutter contre les excès des influenceurs ou influx voleurs est en passe d'arriver à l'Assemblée nationale. Cette fois, elle est l'œuvre d'un député socialiste du Calvados, Arthur Delaporte. Elle sera déposée dans les prochains jours, explique l'élu à Libération, de façon à être examinée dans l'hémicycle le 9 février, jour de la niche parlementaire du groupe socialiste, à suivre en direct sur la chaîne Twitch de Jean Massier. Enfin, je dis ça, il faut qu'on voit parce que on verra. Concrètement, l'objectif du texte du socialiste que Libération a pu consulter est simple. Il vise à interdire totalement la promotion sur les réseaux sociaux de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et actes de chirurgie, à l'exception du relais des campagnes de santé publique du gouvernement. Ah oui, bah oui. Ainsi que les placements ou investissements financiers et actifs numériques entraînant des risques de perte pour le consommateur. Ok. Ce genre de publicité diffusée par des célébrités suivies par plusieurs millions d'abonnés a causé des dérives graves, en particulier sur des enjeux de santé publique et d'addiction, justifie le député socialiste. Et le Normand de citer l'exemple de Délian Thierry, influenceur suivi par 1,5 million d'abonnés, qui le 15 novembre faisait la pub pour une pilule anti-cancer. Ah oui, c'est vrai. Oh. Si on a des cellules cancérigeuses, ah oui, c'est vrai, il avait dit ça. Si on a des cellules cancérigeuses dans notre corps, ce produit-là les tue, affirmait-il face caméra. Le tout teinté d'un petit accent complotiste. C'est pas vendu en France ni en Europe parce que c'est interdit. Ils veulent pas, c'est beaucoup plus intéressant pour eux que vous alliez à l'hôpital et que vous payiez une blinde. Des pseudo-remèdes qui ne s'appuient évidemment sur aucune étude scientifique, tu m'étonnes. Ouais, mais en même temps, les études scientifiques, elles sont faites à l'hôpital, alors c'est bien la preuve qu'il y a un conflit d'intérêts, hein. La proposition de loi d'Arthur Delaporte a de bonnes chances d'être adoptée tant l'idée de réformer un secteur trop pauvre en garde-fous paraît sensée. Si tel est le cas, le non-respect de la nouvelle réglementation serait puni par 5 ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende. Le texte du député prévoit également que soient interdites les promotions pour des abonnements à des pronostics sportifs, pour des inscriptions à des formations professionnelles, ou à des jeux d'argent et de hasard. Sauf lorsque le public est explicitement informé que ceux-ci sont réservés aux personnes majeures, ou encore que la mention contenu sponsorisé soit incrustée en continu sur l'écran durant toute la durée du contenu, histoire d'apporter de la visibilité pour que ce ne soit plus qu'un simple hashtag noyé au milieu d'une dizaine d'autres, développe Delaporte. Ok. Voilà désormais plusieurs semaines que le néo-député socialiste travaille sur le sujet. Tout commence au début du mois d'octobre, en plein débat sur le compte professionnel de formation à l'Assemblée nationale. Arthur Delaporte veut alerter sur les arnaques qui pullulent sur les réseaux sociaux, en l'occurrence ici sur les fausses certifications CPF. Et oui, il a raison. Malheureusement, le CPF, c'est un très bon outil, mais il est dévoyé par tout un tas d'arnaqueurs et c'est chiant. Et c'est dommage. À la tribune, l'élu du Calvados cite alors Maëva Guénam, une des candidates de télé-réalité les plus populaires au monde, en reprenant son discours mot pour mot. Alors, mes amours, je voudrais vous parler de Fast Formation. C'est chanmé. En fait, toutes les formations qui sont 100% gratuites puisqu'elles sont agréées par l'État. Et c'est des formations qui vous permettent de travailler et de gagner de l'argent. Le rappeur Booba, en guerre contre ceux qu'il appelle les influx voleurs, partage la séquence sur les réseaux sociaux. Je cite, la vidéo a beaucoup tourné. Je me suis retrouvé assailli de messages. Beaucoup de personnes qui ont subi ces arnaques m'ont fait part de leurs témoignages, en disant enfin on parle de ce sujet à l'Assemblée nationale, raconte Delaporte. Le socialiste creuse alors cet univers qu'il ne connaissait que de loin. Il échange avec les acteurs du secteur. Le youtubeur spécialisé en télé-réalité Sam Zira l'invite sur sa chaîne pour un petit heure d'interview filmée. Ah, c'est bien ça. Tandis qu'au Palais Bourbon, plusieurs députés s'emparent du sujet. On en discute de temps en temps avec les autres députés investis sur le sujet, mais le rythme de travail est tel qu'on n'a pas pu créer de vrais groupes de travail, regrette le socialiste. Selon lui, son texte est d'ailleurs complémentaire avec ceux déposés par ses collègues écologistes et insoumis. Celle d'Aurélien Taché concerne plutôt le droit de la consommation et la régulation du métier d'agent. Celle de Nadège Abou-Mongoli et de François Piquemal, le besoin d'effectifs supplémentaires pour la répression des fraudes. La nôtre se contente plus sur la protection des mineurs et la santé publique. Oui, il a raison, oui, il a raison. Oui, c'est complémentaire, ouais. Le député rappelle toutefois que le travail parlementaire n'est qu'un aiguillon. Le levier majeur, c'est la mobilisation massive des moyens pour la répression des fraudes. Mais ça, c'est aux mains de l'exécutif, poursuit-il. Pour l'instant, on semble être plus sur de la communication que sur une réelle prise en main. Ok. Bon, bah, il est intéressant cet article. Donc, lui, visiblement, il vise des secteurs entiers d'interdiction, les produits pharmaceutiques. Donc, ça, je peux comprendre. Même s'il faudra probablement préciser, vous voyez, c'est pour ça que le travail d'amendement, il est important. Il faudra peut-être préciser de quels produits on parle. Est-ce que faire de la publicité pour des produits de parapharmacie, genre la crème solaire, qui n'est pas un médicament, les dispositifs médicaux et les actes de chirurgie, ça évidemment, c'est pour les trucs de chirurgie esthétique, c'est pour les fake meds et c'est pour toutes les pubs que vous avez dû voir tourner sur des faux dispositifs médicaux, genre pour te remettre le cou en place, les mecs qui te vendent des trucs qui t'étranglent, tu tournes la vis et c'est censé remettre tes artères en place. Ne faites jamais ça, c'est extrêmement dangereux. À l'exception du relais des campagnes de santé publique du gouvernement, là c'est pareil, il faudrait santé publique, il n'y a pas que le gouvernement qui fait des campagnes de santé publique, il y a aussi les conseils régionaux, il y a aussi des agences d'État, il y a aussi, enfin bref, mais pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Ainsi que les placements ou investissements financiers et actifs numériques entraînant des risques de perte pour le consommateur, bah ça, typiquement, c'est les cryptos. C'est typiquement les cryptos, les faux placements, les copies trading et toutes ces conneries, où il n'y a pas assez de prévention auprès des jeunes, notamment pour leur dire, attention, placer son argent, c'est prendre un risque financier. C'est pas parce que l'influenceur te dit, t'inquiète, c'est sans risque, qu'en fait, il n'y a pas de risque. D'ailleurs, c'est mensonger, il n'a pas le droit. Donc ouais. Why not, hein? Pareil pour les abonnements à des pronostics sportifs. Alors ça, c'est toute la difficulté des paris sportifs. Il y a des gens qui. Donc il y a des applications que vous connaissez, hein, Winamax, etc., qui vous font faire des paris sportifs. Et puis il y a des applications où il y a des abonnements à des chaînes Telegram, des trucs comme ça, qui vous disent sur quoi parier. C'est ça les pronostics sportifs. Et ça, pour le coup, il faut que ce soit encadré aussi, parce que putain, il y a du pognon qui part là-dedans. Ça gère si c'est une vidéo qui fait la promotion de préservatifs ou autre truc de protection. Bah, c'est pour ça qu'il faut être précis. Non, mais c'est tout l'intérêt de soit que la loi soit assez précise, soit qu'on ait un décret d'application qui précise les contours. En disant qu'évidemment, faire la publicité pour des préservatifs, pour la pilule du lendemain, pour je sais pas moi. Oui, bah non, ça c'est de la prévention à la lutte contre le MST et contre les grossesses non désirées. Donc oui, ça on peut faire des partenariats avec Durex, tu vois. Est-ce que le statut d'influenceur est défini par la loi actuellement? Non. Il n'y a pas de statut d'influenceur précis déterminé par la loi. C'est un peu le principe de fonctionnement des réseaux sociaux qui est que tout le monde est à son échelle un producteur de contenu. Donc, est-ce qu'il faudrait préciser le statut, ou alors sans forcément créer de statut, on peut créer une catégorisation précise de manière à ce que les juges fassent, reconnaissent une personne comme ayant fait un acte d'influence en ligne. Pourquoi pas, hein, moi ça pourrait être intéressant de donner le but en fait, c'est de donner à la justice ou à l'administration des outils juridiques utiles pour faire la part des choses. Est-ce qu'une personne qui dit à deux de ses copains ou de ses copines, tiens, j'ai testé la nouvelle crème de jour de la marque machin, je la trouve trop bien, est-ce que c'est de l'influence? Est-ce qu'on peut mettre sur un pied d'égalité la personne qui parle à deux de ses copines pour lui recommander un gel douche et la personne qui a un compte Instagram suivi par 10 millions de personnes? Bah, peut-être que la différence entre les deux, c'est la masse de gens touchés. Donc why not, hein? On peut discuter de la création d'un outil qui permette à un magistrat d'identifier une personne qui a de l'influence sur les autres et qui, dès lors, doit faire l'objet de protection, de précautions particulières. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En vrai, si ça peut permettre aussi si ça peut permettre aussi d'encadrer la question de la responsabilité vis-à-vis du cyberharcèlement, moi je suis chaud, hein. Alors c'est déjà le cas, parce que en droit de la liberté d'expression, etc., il y a déjà des encadrements jurisprudentiels sur le fait que tu peux pas te comporter de la même manière si tu parles à deux personnes ou si tu parles à 100 000. Donc voilà. Est-ce que les sponsors par des organisations religieuses sont autorisés aujourd'hui? Je vois pas ce qu'il interdirait. Influenceur, c'est pas un métier. Mais on s'en fout. Enfin, peu importe, métier, pas métier. En plus, le débat n'est pas très intéressant. Le fait est que c'est un statut social. Le fait est que c'est un phénomène, c'est une réalité. Influenceur. Donc, les juges doivent le prendre en compte, que ce soit un métier ou pas, on s'en branle. Alors là, il y a des gens qui sont influents sur d'autres, c'est tout. Et qui en font commerce. Possible d'avoir le lien de l'article? Ouais, tiens, je te le mets dans le chat. Et je crois qu'il est réservé aux abonnés, par contre. La PPL précise bien qui est concerné ou pas. Bon, bah très bien, s'il a déjà fait le boulot, intéressant. Les personnalités politiques pourraient être considérées comme influenceurs ou influenceuses. Ouais, mais alors là, sur les placements de produits, je vois pas. Je vois pas. Ouais, non, je sais pas, vous avez déjà vu des politiques vous vendre des produits? Un certain lissage brésilien. Non, c'était pas un partenariat en plus. Mais tiens, c'est pareil, c'est intéressant ça, dès lors que le partenariat n'est pas rémunéré. Est-ce qu'on est toujours dans des problématiques d'influence? Le mec qui vous fait de la pub pour des paris sportifs sans être payé, mais juste pour être méchant, pour que vous perdiez du pognon, est-ce qu'il est condamnable? Est-ce qu'il faut nécessairement qu'il y ait transaction financière pour qu'il y ait partenariat et influence? Ah non, mais ça doit être super intéressant quand t'es juge d'avoir ce genre de questions. On n'a pas la même définition de super intéressant. Eh bah peut-être, mais moi je trouve ça intéressant. Montebourg, l'homme sandwich. Ah, il nous a vendu du miel. La notion de conflit d'intérêt ne tient pas forcément compte du lien financier immédiat. Un pro de la santé peut être sanctionné s'il fait trop la pub d'un labo ou un autre, même s'il n'a pas de lien financier direct. Oui, c'est vrai, t'as raison. Oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais, en plus, on pourrait copier cette logique-là en disant que t'as une responsabilité dès lors que tu influences beaucoup de gens. Et cette responsabilité t'impose de la même manière que les médecins ont effectivement une responsabilité de faire attention à ce qu'ils disent. Mais après, les médecins, c'est une profession régulée. C'est comme les avocats. Les avocats ont des règles déontologiques obligatoires. Ils doivent se prémunir contre certaines. Un certain type de comportement qui peut porter préjudice à la justice, en faisant croire que un avocat n'a pas le droit de dire à un client, t'inquiète, c'est dans la poche, c'est gagné, c'est sûr. Il doit toujours faire attention à ce qu'il dit, dire attention, machin. Quid aussi des rémunérations en matériel? Les influenceurs font une vidéo pour promouvoir la dernière carte graphique. Ah bah ça, c'est une rémunération, hein. Moi, je vous ai présenté mon bureau Steelcase. C'était une OPSP, ça je vous l'ai dit, hein. Hop. C'est dans la poche, monsieur Gentil. C'est bon, je l'ai. Je l'ai, j'ai la ref. Les journalistes sont une profession régulée parce qu'ils prennent la parole dans l'espace public. Alors non, attention, non. Non, non, non. Les journalistes, c'est pas une profession régulée. Enfin, c'est plus compliqué que ça. Ils bénéficient de la protection de la liberté d'expression et de la liberté de la presse, qui est un droit de tous. C'est pas spécifique aux journalistes. La loi de 1881 ne s'applique pas qu'aux journalistes, ça s'adresse à tout le monde. Il y a des régimes juridiques spécifiques sur les publications, avec le principe de la direction de publication et de la complicité possible pour l'auteur d'un article, mais c'est spécifique au mode de fonctionnement. Mais voilà. Quid d'un code déontologique pour les influenceurs et les entreprises ayant recours à des trucs d'influenceurs? Moi, je suis d'accord. Pourquoi pas? Le problème, c'est que la notion de déontologie, vous avez bien conscience que la notion de déontologie, ce sont des règles qu'une profession ou un secteur d'activité ou un ensemble de personnes adoptent et fait respecter en son propre sein. C'est ça la différence entre la déontologie et la loi. C'est que la déontologie, c'est l'ensemble des professionnels d'un secteur qui se mettent d'accord pour adopter ensemble un code déontologique et qui mettent ensemble en place des organismes visant à faire respecter cette déontologie. C'est pour ça que les avocats sont tenus par les décisions des sections disciplinaires du barreau, les médecins, il y a le conseil de l'ordre, etc. Vous voyez? Donc, moi je suis complètement, enfin moi je fais partie de ceux qui sont les premiers à dire que why not un code de déontologie? Mais le problème, c'est que si un influenceur refuse de signer le code de déontologie, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut lui appliquer quand même les règles de la charte de déontologie, tu vois? Le problème, il est là. Donc ça veut dire qu'on crée un statut, et donc ça veut dire, enfin mais pourquoi pas, hein, on peut imaginer plein de trucs. Moi je suis pas contre, hein. Faut juste faire attention aux effets de bord possibles, aux effets pervers. Faut éviter le risque de dérive, soit de contrôle étatique, soit de machine à gaz. Influenceurs non conventionnés, non remboursés par la Sécu. C'est quoi le résumé de Pantin? Il y a une ville qui s'appelle Pantin, dans Seine-Saint-Denis. Le nom du canal de Saint-Martin, pour ceux qui ne connaissent pas, ou canal de l'Ourcq, pardon. Et la ville de Pantin, le maire de la ville de Pantin a annoncé que la ville allait être rebaptisée symboliquement Pantine pour l'année 2023, pour faire progresser l'égalité femmes-hommes. Et ça a généré un débat sur Twitter et sur les chaînes d'infos en continu, dont tout le monde se branle. C'est la polémique de merde du jour. C'est pour ça que j'ai mis le titre. Pour faire genre c'est intéressant, alors qu'on s'en branle. Mais alors vraiment, on s'en fout. voilà, c'était la sous-polémique Twitter du jour. Elle aura disparu. Je pense qu'elle a déjà disparu. Là, il est 18h20. Je pense que tout le monde est passé à autre chose. Mais vous inquiétez pas. Demain matin, il y aura une nouvelle polémique à la con. Il y aura une nouvelle polémique à la con. On va pouvoir s'insurger demain sur un autre sujet. C'est encore l'article le plus consulté du Figaro. Oh. C'est génial. C'est vraiment génial. La galette des rois ou la galette des reines? Ah oui, il y a ça aussi. Ça aussi, c'était la deuxième polémique de merde du jour. Ouais, la galette des rois et des reines. Il y a des gens qui n'étaient pas contents parce qu'on disait parfois la galette des rois et des reines. Intéressant, hein. Sympa la politique, hein. Il y a Omar Sy. Ah oui, il y a Omar Sy aussi, putain, le pauvre. Omar Sy, c'était hier. Ah, c'était hier? Ah bon, bah c'est fini alors. Avant-hier. Oh là là. Non, bah, si vous l'avez raté, c'est vraiment, encore une fois, c'est pas grave du tout, hein. Je... C'est le principe des sous-polémiques, c'est que si vous l'avez raté, vraiment, y a... on s'en branle, mais alors complètement. Salut Jean, je viens d'arriver sur ton live, pourrais-tu m'expliquer ce que c'est que la barre de 53 millions d'euros en haut à droite de ton écran? La barre que tu vois, c'est la barre de progression du financement participatif d'une de mes émissions que que j'aurai l'immense plaisir de vous présenter bientôt, qui s'appelle Backseat et qui a lieu chaque jeudi, qui aura lieu chaque jeudi à 19h. Sur ma chaîne Twitch et qui est un talk show d'actualité politique en live. 3 heures d'émission chaque jeudi. Tu peux aller sur utip.io/JeanMassier et là tu as tout un texte d'explication qui t'explique pourquoi, comment donner de l'argent, pourquoi donner de l'argent. Regarde comme c'est formidable cette émission. C'est trop de la balle. Et normalement, quand tu as fini de lire le texte, tu ne pourras pas t'empêcher de cliquer sur ce bouton-là et de faire un don. Ah non, ça défile pas quand on maintient appuyé. Faut appuyer. Ah putain. Ah non, mais ça c'est tous les mois. Non, non, faut cliquer sur une seule fois là. Ah, faut cliquer vachement longtemps. Bon, il se peut que t'aies une tendinite à force de cliquer. On peut pas rentrer soi-même un montant? Ah mais si, on peut! Voilà. Pourquoi on peut pas valider? Comment ça, je peux pas faire un don de 10 000 balles? Ah, 9 999, je peux. Mais 10 000, je peux plus. Ce créateur est en live. Ah ouais, du coup, ton don, il va s'afficher là sur mon live. Tu vois, c'est trop bien fait. C'est vraiment incroyable. Donc, n'hésite pas. 10 000, il y a un trac fin, c'est chaud, j'avoue. Tu fais un deuxième don à 1 euro. Ouais, voilà, tu arrondis. C'est dommage, j'allais donner 10K. Ah, c'est con, hein. Ah merde. Ah bah, je peux pas cliquer, je peux pas cliquer. Hein. Je voulais donner 10, 100 000, mais flemme de donner 10 fois 10 000. Est-ce qu'on peut déduire ce don de nos impôts? Non, malheureusement, non. La première dame de France a-t-elle le droit d'avoir un poste politique? Alors regarde, tu vas faire un truc extraordinaire. Il est où? Merde, je l'ai foutu où? Il est où mon portable? Merde! Merde! Je voulais te montrer. Tu vas sur un site internet qui s'appelle TikTok.com. Sur le site TikTok.com, dans la barre de recherche, tu tapes Jean Massier. Hop. Tu cliques sur le premier lien. Tu tombes sur le TikTok de Jean Massier. Et là, regarde, le dernier TikTok qui a été publié hier, c'est sûr, qui répond précisément à ta question. Boum! Incroyable. T'as vu comment c'est bien fait? Et vous avez vu comment j'ai percé hier? J'ai fait 219 000 vues sur un truc sur le tabac. Oh, l'influenceur. Ouais, t'as vu? T'as vu l'influenceur? Comment j'influence? C'était scripté cette séquence? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ah, vous croyez que je paye des gens pour qu'ils tapent dans le chat des questions pour diriger les réponses? T'imagines? Perso, je suis payé. Jean, comment on s'abonne? Le chat de figurant. Donc bref, t'es juste devenu influenceur. Ouais, c'est terrible. Donc bientôt, il y aura une loi qui encadrera mon métier. Non mais bref, on verra où ce sera cette loi. On regardera la niche parlementaire donc des socialistes qui aura lieu donc le 9 février, c'est ça? Ouais, jeudi 9 février, c'est la niche socialiste. Alright. Est-ce qu'il y a Baxit demain? Non. Non, non. A priori, si tout se passe bien, c'est la semaine prochaine. Parle-nous de Prime, s'il te plaît. Donc voilà, j'avais un autre article que je voulais lire avec vous, que je trouvais intéressant. Enfin, que j'ai pas encore lu, justement, j'attendais de pouvoir le lire avec vous. Un article de Libé à nouveau sur les chefs de parti. Les chefs des partis politiques. Est-ce que tu streames toujours les QSG? Ouais, ça reprend la semaine prochaine. Là, c'est encore les vacances. Est-ce que Baxit se rapprochera plus du commentaire d'actu politique ou est-ce qu'il tentera plus d'éclairer le fond, les programmes, les objectifs? Bah les deux. Bah, regarde la première saison, tu verras. Ce sera sensiblement similaire. Ça collera mieux à l'actualité, j'espère, mais ce sera mieux. Hop. En plus, le dessin, je le trouve rigolo. Le dessinateur s'appelle Terreur Graphique. Et il a fait un dessin avec les chefs de parti qui portent leur leader sur le dos. Donc t'as Éric Ciotti qui porte Wauquiez, t'as Jordan Bardella qui porte Marine Le Pen, et t'as Manuel Bompard qui porte Jean-Luc Mélenchon. Tu es abonné à tous les grands journaux nationaux ou est-ce qu'il y a quelque chose pour avoir accès à plusieurs journaux? Il y a des abonnements communs, ça existe, mais moi je suis abonné à tous les journaux. C'est mon métier en même temps. Depuis septembre 2022, cinq formations politiques ont changé de visage. Et trois autres doivent suivre d'ici avril. C'est vrai que quand on y pense, il y a un mercato en ce moment en politique. Auparavant, tremplin essentiel vers l'Élysée, la présidence d'un mouvement, aujourd'hui confiée à des personnalités peu connues, relève davantage de la gestion de boutique que de l'incarnation. Moi, j'ai lu ce chapeau-là. On appelle ça le chapeau d'un article. Et je me suis dit, mais c'est trop intéressant, faut que je lise ça avec le chat. Je suis sûr que ça va intéresser le chat. Hop! Donc on va lire ça ensemble. Moi je trouve c'est vrai que ça relève davantage de la gestion de boutique que de l'incarnation. Ça veut dire quoi présider un parti de nos jours dans le monde dans lequel on vit? C'est qui le mec avec la doudoune rouge? C'est Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui s'est rendu célèbre en portant toujours une parka rouge. À parti affaibli, leader Rikiki. Comme il semble révolu le temps où les congrès socialistes tournaient au choc des titans, façon duel entre Lionel Jospin et Laurent Fabius en 1990, effectivement, comme elle paraît lointaine, l'accession de Nicolas Sarkozy à la tête de l'UMP, machine à conquérir le pouvoir en 2007 et héritière du RPR de Jacques Chirac. Depuis, à droite, aucun chef de parti n'a été en mesure de gagner, voire même de se présenter à une élection présidentielle, pointe le politologue Frédéric Savicky. C'est vrai ça? C'est vrai ça, quand on y pense. Putain. Depuis Sarkozy, les gens qui ont été à la tête du parti n'ont jamais été foutus, soit de remporter, soit même de se présenter à l'élection. Ah, c'est plus que c'était, hein, présider le grand parti de la droite. Eh, ça fait réfléchir, hein. Fillon, mais Fillon, il présidait pas le parti. Non, il dirigeait pas le parti, François Fillon. Il a remporté une primaire. C'est pas pareil. Attention, c'est pas pareil. Hollande, il dirigeait pas le parti quand il a remporté la primaire de 2011. Non, 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 non. Non, 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 non. Pour ce professeur de sciences politiques à la Sorbonne, ce sont plus des gestionnaires de boutique, des diplomates, des hommes et des femmes de consensus, et non des leaders qui incarnent leur parti. Ces 4 derniers mois, 5 partis ont changé de tête, dans l'indifférence générale. À l'exception du formidable chat de la chaîne Twitch de Jean Massier, tous les Français s'en branlent. Stéphane Séjourné est passé de pr le premier au tourniquet en devenant mi-septembre secrétaire général de Renaissance. Puis Jordan Bardella a pris les rênes du Rassemblement national le 5 novembre. Marine Tondelier a été élue secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts le 10. Et Hervé Marseille, président de l'Union des démocrates et indépendants, l'UDI, depuis le 10 décembre. Le lendemain, chez les Républicains, Éric Ciotti succédait à Christian Jacob. En 2023, trois formations doivent changer leur numéro 1 ou les reconduire. La France insoumise, le Parti socialiste fin janvier, puis le PCF en avril. La plupart d'entre eux ne sont pas des candidats évidents à la présidentielle. Souvent, ils ne sont même pas des figures les mieux connues de leur parti. C'est vrai ça? C'est vrai ça? Dans les autres pays, le chef de parti gouverne ou aspire à être chef du gouvernement, rappelle Savicky. La France est devenue une vraie exception. Pour répondre à la chute des adhérents et à la perte de crédibilité, les formations politiques ont mis en place des primaires ouvertes pour légitimer leurs candidats à la présidentielle. Mais, ce faisant, elles ont affaibli la structure partisane, donc son chef, et poussé les personnalités à s'affirmer en dehors de la direction. Que vont-ils donc tous faire dans cette galère? Les uns travaillent pour eux, Les autres roulent pour le véritable patron de leur camp. D'autres encore chauffent la place sans savoir pour qui. Merci Pierrot TF6 pour les 10 subs offerts au chat. Pardon, je me suis trompé d'alerte. Merci beaucoup. Merci Pierrot pour les 10 subs. 10 subs offerts au chat. Merci beaucoup, merci. Allez, on s'ambiance pour Pierrot, merci. Merci beaucoup, bravo, merci pour ce don très généreux, merci pour les 10 subs offerts au chat. Pierrot, merci à toi. Mais du coup, moi je trouve ça cool, je trouve ça intéressant l'analyse qui est de dire en fait, c'est à cause des primaires que les partis politiques et les chefs de partis politiques se sont affaiblis, puisque maintenant si vous voulez avoir le pouvoir... ça sert plus à grand chose de prendre la direction du mouvement, du parti. Il vaut mieux prendre l'investiture, donc construire sa personnalité en dehors de la structure. Vous vous faites connaître à l'extérieur de la structure, vous remportez la primaire et le parti se met à votre service. Être à la tête du parti ne rapporte finalement que des emmerdes. J'aime bien l'idée, je suis d'accord. Hop. Ceux qui chauffent la place pour leur boss. À droite et à l'extrême droite, les choses sont claires. À ce stade, ni Jordan Bardella pour le RN, ni Éric Ciotti à LR ne visent l'Élysée. Le premier est un obligé de sa prédécesseuse Marine Le Pen, à qui il épargne seulement l'ennui de gérer au jour le jour le parti. Donc ça c'est sûr, Jordan Bardella c'est clair, il n'a pas vocation à être candidat à l'élection présidentielle en 2027. Il s'occupe de gérer la boutique pendant que Marine Le Pen vit sa vie. Et fait sa carrière politique de son côté. Nul ne doute, même si ce n'est pas encore dit, que la véritable patronne se lancera en 2027 dans une quatrième campagne présidentielle. Quant à Éric Ciotti, il soutient ouvertement la candidature de Laurent Wauquiez, ne revendiquant que l'inconfortable honneur de cheffer les LR en chute libre. Ouais, c'est intéressant. C'est vrai qu'Éric Ciotti a été élu président des Républicains en affichant clairement la couleur, en disant « je soutiendrai Laurent Wauquiez ». Je soutiendrai la candidature de Laurent Wauquiez en 2027. Intéressant. Il y a un côté ticket. Votez pour moi et ce sera Wauquiez le candidat. Du coup, quel intérêt personnel pour Ciotti? Bah, c'est une bonne question. Du coup, à quoi ça sert? Parce que c'est vrai que vu comme ça, Ciotti, il dirige un parti qui est en train de crever. Bon, c'est pas ouf, hein. C'est pas très enviable. Chez les Insoumis, on ne s'est même pas embarrassé d'un congrès. Avant une assemblée représentative mi-décembre, Manuel Bompard annonce à l'AFP que c'est lui qui prendra la suite d'Adrien Quatennens au poste de coordinateur de la France Insoumise. Pas de vote militant. On appelle ça, à LFI, le consensus. Oh, ils sont taquins, les Libérations. Mais dans la principale formation de gauche, celui qui tient les manettes de l'appareil reste le patron, Jean-Luc Mélenchon. En retrait, mais pas en retraite, comme il se décrit. Le triple candidat à la présidentielle compte sur Bompard, 36 ans, pour tenir un mouvement ébranlé par l'affaire Quatennens, les critiques sur le manque de démocratie interne et les tensions entre alliés de la nouvelle Union populaire écologique et sociale concernant les futures décisions européennes. Élections européennes. Oui. Mais qui a hérité de la circonscription en or de Mélenchon à Marseille et vu celui qui a hérité de la circonscription en or de Mélenchon à Marseille est vu comme un organisateur hors pair. C'est vrai que c'est la réputation qu'il a, Manuel Bompard. C'est un excellent organisateur. C'est typiquement le genre de mec à qui t'as envie de confier ton parti. Très compétent, très bon gestionnaire, dirigeant et tout. C'est pas le mec le plus charismatique, c'est pas le mec le plus connu des Français, mais c'est un très très bon négociateur, c'est un très bon organisateur, etc. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est un bon directeur de campagne, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il est bon dirigeant politique, prévient cependant un de ses camarades. Bah, moi, je suis pas d'accord. Hein. Moi, je dirais que c'est un bon directeur de campagne, donc c'est un excellent dirigeant politique. Après, est-ce que ça fera un bon ministre un jour peut-être? Ça, je sais pas. Je suis le premier à dire, attention, les gens qui sont bons dans les appareils des partis politiques sont pas les meilleurs dirigeants pour des ministères. Voilà. Il y en a qui ont été décevants. Prévient cependant un de ses camarades. Si Mélenchon veut rempiler en 2027, Bompard n'aura pas, en tout cas, changé les serrures du siège de la France Insoumise. Faut pas oublier que Bompard, c'est le bâtisseur du programme NUPES. Du programme et surtout de l'alliance électorale. C'était le négociateur de l'alliance électorale. Manuel Bompard. Pour la France insoumise, il négociait avec d'autres de ses acolytes dans les partis politiques. Ensuite, il y a ceux qui gardent les clés, mais pour qui? Ah oui, Clémence Guettet. Ouais, Clémence Guettet, elle s'occupait plus de la partie programme. Emmanuel Bompard, il s'occupait plus de la partie circo. Je crois, je veux pas dire de bêtises. Ou alors, ils étaient main dans la main, ils bossaient ensemble. J'en sais rien, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Merci Guillaume. Qu'il dirige la désormais première force politique française, Renaissance, ou celle qui l'ont précédée au pouvoir, le Parti Socialiste, Europe Écologie, Les Verts, Stéphane Séjourné, Olivier Faure et Marine Tondelier doivent faire tourner un parti qui se mettra, en temps voulu, au service d'un autre. Certes, Séjourné, lui, sait qui est le patron. Pour l'instant. Évidemment, c'est Emmanuel Macron le patron. Lors du raout de lancement du parti au Louvre en septembre, son président d'honneur, Emmanuel Macron, avait fait parvenir un long message vidéo de façon à planer sur la soirée. Personne n'en doute, le chef, c'est lui. Et ça, pour le coup, il n'y a pas de doute. La mission du secrétaire général, contenir les ambitions afin que la compétition interne pour 2027 ne parasite pas trop le second quinquennat de Macron, qui ne pourra pas se représenter. La tâche est ingrate. Un parti majoritaire est rarement the place to be. Le diriger, c'est beaucoup de coups à prendre et une liberté de parole réduite. Tu m'étonnes, putain. Stéphane connaît la difficulté du poste. Il a eu envie et c'est un bosseur. Il est le plus efficace pour réussir la structuration du parti, vante Aurore Berger, patronne des députés Renaissance. Enracinement, avec l'élection de responsables départementaux en janvier, préparation des scrutins locaux, Séjourné revient aux vieilles recettes avec l'espoir que le macronisme survivra à Macron. À gauche, socialistes et écologistes ont débuté ce quinquennat main dans la main. Mais chacun chez soi. Pas question de réunir ces étroites boutiques pour peser face à la France insoumise. Du coup, on fait comme avant. Interdisant le cumul d'une fonction de parlementaire avec celle de secrétaire national, les écolos ont désigné une nouvelle chef, Marine Tondelier, début décembre. À 36 ans, celle-ci récupère un parti fort de 23 députés, mais déchiré par les accusations de violence psychologique visant son ancien patron Julien Bayou et par la ligne et les méthodes de la députée de Paris Sandrine Rousseau. Ouais, est-ce que ça déchire le parti à ce point-là? Je sais pas. Les médias, oui, mais le parti, je suis pas sûr. Très bonne connaisseuse du mouvement, Tondelier va devoir vite s'imposer comme nouveau visage de son camp dans les médias pour empêcher que les positions de Rousseau, omniprésentes en 2022, ne soient confondues avec celles de tous les Verts. Je sais pas. Je sais pas si Marine Tondelier, elle doit à ce point-là contenir Rousseau. Je sais pas, je suis pas sûr qu'en interne au parti, ça fasse tant débat que ça. Autant que sur le plateau de CNews, chaque fois que Sandrine Rousseau ouvre la bouche, ça les fasse hurler, je veux bien, mais enfin bon, au sein du parti Europe Écologie Les Verts, je pense qu'ils ont d'autres priorités, quoi. Par contre, effectivement, Marine Tondelier existait médiatiquement. Face à Sandrine Rousseau, c'est effectivement un enjeu pour elle. Oui, je peux le comprendre, oui, effectivement. Marine Tondelier, c'est pas la nana la plus connue des écolos. Elle a un enjeu de présence médiatique. Voilà. Peut-être qu'on l'invitera sur Baxit. Mais pas pour l'aider, hein, pour lui poser des questions. Ah. Elle est quand même très clivante, Rousseau. Ouais, mais clivante pour qui? Tu vois, c'est ça que je veux dire. Clivante pour qui? Même dans son parti? Peut-être. Non, non, peut-être, 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 je sais pas. Il y a peut-être des écolos dans le chat qui savent mieux que moi quelle est l'ambiance en interne au parti, mais. Ce problème, Olivier Faure le connaît bien. Lorsqu'en 2018, il récupère le PS en lambeaux au lendemain du quinquennat Hollande, il est compliqué pour lui d'accéder aux matinales radio et télé. Putain, c'est vrai, c'était compliqué, hein. Ce n'est pas toujours plus simple 4 ans après. Mais le job lui plaît tellement qu'il souhaite rempiler. À 54 ans, le député de Seine-et-Marne ne devrait pas avoir trop de problèmes à garder sa casquette de premier secrétaire du PS d'ici le prochain congrès du parti, fin janvier à Marseille. Ses adversaires, Hélène Geoffroy et Nicolas Mayer-Rossignol, ne font pas le poids. C'est vrai que alors, personne ne sait qui c'est. Hein. Personne ne sait qui c'est. Les seuls présidentiables de cette famille l'ont déjà été. Anne Hidalgo, ne s'impliquant pas dans le Congrès, Carole Delga, où ont déjà rendu leur carte, Bernard Cazeneuve. Oui, c'est vrai. Oui, en fait, Olivier Faure, il n'est pas vraiment concurrencé. Alors, il est concurrencé en dehors du parti, on verra la suite de l'article. Faure, dont Mélenchon loue désormais le courage, est un défenseur de la NUPES. Ses bonnes prises de parole cet automne à l'Assemblée contre Elisabeth Borne suggèrent à certains qu'il pourrait sortir de l'ombre et jouer les premiers rôles à gauche. L'ambition se cache parfois dans la discrétion. Vous pensez qu'Olivier Faure, il a un avenir important à gauche? Lui qui a hérité du PS en lambeaux en 2017, qui a réussi à le faire remonter dans l'estime des gens à gauche pour avoir signé l'accord de la NUPES, l'arc des rédemptions, tout ça, tout ça. Peut-être. Peut-être, peut-être. Non, je sais pas, on verra, on verra, on verra. Alors après, est-ce qu'il redeviendra ce qu'a été le PS du passé, c'est-à-dire la grande force politique de la gauche et tout? Je pense pas, ou pas comme ça, ou pas tout de suite, ou pas comme ça Zinedine, mais je sais pas. Ok. Et enfin, il y a ceux qui roulent pour eux-mêmes. François Bayrou, Édouard Philippe et Fabien Roussel. Ah, c'est vrai ça. Elle est trop marrante cette caricature. Et... Au PS, oui. Est-ce que ça aura un poids sur l'ensemble de la gauche? C'est un autre débat. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Tu connais un abonnement qui regroupe l'ensemble des journaux? Il y a la chaîne Twitch de Jean Massier à laquelle tu peux t'abonner en utilisant par exemple ton compte Amazon Prime si tu en as un ou si un membre de ta famille en a un. Ça permet de gratuitement t'abonner à sa chaîne. Et comme ça, il te lit des articles de journaux différents. C'est cool. Bon, sauf aujourd'hui, on lit que du Libé, mais ouais, t'as compris quoi. Alors. Eux, ils sont le parti. Et le parti, c'est eux. Une machine pour mettre sur orbite leur possible candidature présidentielle. Selon Édouard Philippe, sa boutique Horizon a vocation à s'ancrer dans le temps long, voire loin pour faire bien, dit le slogan de la maison. Comme s'il ne s'agissait pas d'une simple écurie. On n'est pas forcé d'y croire. L'ancien Premier ministre, qui ne fait pas mystère de ses ambitions, bâtit patiemment, coupant un à un les rubans des comités locaux. Il veut un parti à son image, misant sur les maires et sur une droite modérée. Exit le dépassement macronien des clivages. À ce stade, même si Horizon revendique 20 000 adhérents, difficile de parler de vague. Mais Philippe veut peser par ses propres moyens, refusant de se fondre dans le parti unique, un temps rêvé par le président. Le juppéiste aime citer François Bayrou. Si nous pensons tous la même chose, c'est que nous ne pensons rien. Ce dernier, justement, sait que c'est ce qui. Ce dernier, justement, donc François Bayrou, sait ce que c'est de cultiver sa singularité, lui qui avait en 2002 refusé de diluer son UDF dans l'UMP. Comme il rechigne désormais à voir les macronismes absorber le MoDem qu'il préside. L'inamovible Bayrou arrivera en principe au terme de son mandat de 3 ans, fin 2023. Passera-t-il la main? Il se murmure qu'il pourrait reporter l'élection. Statutairement, c'est possible, et des excuses, on peut en trouver 50, prédit un cadre flegmatique. Je pense qu'il se représentera. François ne parle pas de succession. Ce n'est pas tabou. Il nous a seulement habitués à l'idée que c'était le seul. Le Béarnais n'a pas renoncé à une quatrième candidature présidentielle. Sérieux? Le parti est un outil pour rester dans le jeu. Tout ça doit exister pour qu'il puisse éventuellement se présenter, reprend le Bayrouiste. L'organisation, les événements, la vie du MoDem, il s'en fout comme de l'an 40. N'empêche que le mercredi au bureau exécutif, il est là, il fait le boulot. Fabien Roussel aussi tient à l'indépendance de sa vieille maison. Désormais centenaire, le Parti communiste a repris des couleurs, du moins médiatiques, avec son candidat à la présidentielle en 2022. Le député du Nord, qui cultive son franc-parler, n'a pas l'intention de quitter son bureau parisien de la place du colonel Fabien. Il remplira en avril lors d'un congrès sans aucune difficulté, même s'il devra, Union de la gauche oblige, mettre de l'eau dans son vin. Fabien Roussel, qui a forte chance de rempiler. Compte tenu du fait qu'il a rempli son contrat avec les communistes, qui l'ont porté à la tête du parti en 2017, je crois. Question con, elle vient d'où l'expression s'en foutre que, comme de l'an 40? Bah, je crois que c'est de l'ironie. Parce que l'an 40, 1940, ça a été la débâcle et ça a été un tel phénomène, un tel traumatisme pour tous les Français que dire s'en foutre comme de l'an 40, c'est, je sais pas, c'est appuyer sur le côté, c'est impossible de s'en foutre de l'an 40 quand on a connu cette année-là. Non, je sais pas. Est-ce que c'est tous les ans les congrès dans les partis? Ça dépend des partis. Ça peut être tous les 2 ans, ça peut être tous les 3 ans, ça peut être tous les 4 ans. Ça dépend de la durée du mandat. L'expression est plus vieille que 1940? Ah bon? Ah, c'est possible. Bayrou me paraît tellement uber égocentré, sans réelle conviction. Je sais pas pourquoi je pense ça. Bah oui, c'est bizarre que tu penses ça, d'autant que François Bayrou, c'est justement celui qui a mis son orgueil dans sa poche en 2017 pour se placer dans les roues d'Emmanuel Macron et lui apporter son soutien alors qu'il aurait pu se présenter. Donc justement, François Bayrou, il a fait le move inverse. C'est reparti comme en 40. Ah, du coup, je dois confondre. C'est reparti comme en 40. Ah oui, c'est ça l'expression. Non, c'est reparti comme en 14 ou en 40, je sais plus. Bref. Aurait-il vraiment pu se présenter? Ah oui. Ah oui, François Bayrou, oui. Oui. Il aurait très bien pu se présenter. Quoi, il y a eu un don de 1000 balles? Vous êtes sûr de ce mensonge? Je ne l'ai pas vu passer. Il y a quelqu'un qui a fait un don de 1000 balles? Attends, je vais sur le YouTube, je vais vérifier. Attendez! Merde, où est-ce que je fais pour voir les derniers dons? Mais vas-y là, wesh, donne les dons. Non. C'est sur ma boîte mail alors? J'ai épinglé. Ah ouais, il y a eu un don! De 1000 balles, putain! Scipio Dark Phoenix, merci beaucoup! 1000 balles! 1000 balles! Merci beaucoup pour les 1000 balles à Baxit, merci! Incroyable! Incroyable, merci beaucoup pour les 1000 balles. C'est extrêmement généreux de ta part. Merci beaucoup, Socio Dark Phoenix. J'espère que Baxit te plaira. Merci pour ton don. Et merci à tous pour vos dons, quel que soit le montant. Merci, merci. Selon une première explication, cette expression vient des craintes superstitieuses selon lesquelles la fin du monde devait avoir lieu en l'an 40 du 11e siècle. Mais lorsque l'époque redoutable fut passée, il ne fit plus que rire de ces craintes puériles. Ah, intéressant. Ah. Ok, ça expliquerait du coup. Merci, Emilien. Donc ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Considères-tu que quand un média qualifie quelqu'un d'extrême gauche ou d'extrême droite, c'est une atteinte à la neutralité? Non. Je ne sais pas de quelle neutralité tu parles. Les médias ne sont en aucun cas et sûrement pas tenus à une obligation de neutralité. Non. Au contraire, ils sont libres, éditorialement, d'utiliser les qualificatifs qu'ils veulent. Est-ce que tu as d'autres articles? Là, c'était les deux que je voulais lire avec vous, mais s'il y a d'autres sujets et que vous voulez qu'on continue, on peut. Je vais pas tarder. Il y a la question des boulangers. Vous avez dit quoi sur Pantin? Rien, rien, rien. Justement, c'était une blague. Tellement il n'y a rien à en dire, on s'en fout. À quoi sert Bayrou concrètement? J'ai l'impression qu'il connaît tout le monde, mais qu'il prend jamais parti. Il est partout et nulle part à la fois. Bayrou, François Bayrou, est une personnalité majeure du centre en France des années 80-90 à aujourd'hui. François Bayrou, c'était l'un des leaders d'un ancien parti que vous n'avez probablement pas connu, qui s'appelait l'UDF, l'Union pour la démocratie française. Okay? L'UDF, c'est un parti qui était l'héritier de Valéry Giscard d'Estaing. Okay? Donc c'était le centre. Le centre français a une histoire, le centre français a un positionnement historique, des évolutions, des guerres intestines, etc. Le centre français, depuis Giscard et même avant, est plutôt libéral, plutôt proche du radicalisme, donc très républicain, plutôt décentralisateur, même si ça dépend des époques, très européen, mais ça je crois que je l'ai dit, et plutôt ancré au centre droit, proche de la démocratie chrétienne, si vous voulez. Ils sont proches des démocrates chrétiens, allemands, vous voyez. Donc plutôt allié à la droite conservatrice. Voilà. Pour la faire très courte, c'est ça un peu l'identité politique historique du centre. Dans la fin des années 90, enfin dans les années 90, la droite en France était divisée entre deux grandes familles, la famille de l'UDF et la famille du RPR. Le RPR, c'était le Rassemblement pour la République de Jacques Chirac, qui était un parti de droite, un parti de gouvernement de droite classique, etc. Et l'UDF et le RPR avaient l'habitude de faire des alliances ou pas en fonction des élections. Ils se marchaient sur les pieds, pas tout le temps, etc. C'était compliqué. Au début des années 2000, Jacques Chirac a créé un nouveau parti qui s'appelait l'UMP, qui voulait dire au début Union pour de la majorité présidentielle et qui plus tard voulait dire Union pour un mouvement populaire, peu importe. L'UMP, c'était en fait la fusion du RPR et de l'UDF. OK? Donc en gros, les élus du RPR et les élus de l'UDF, enfin les militants aussi, ont décidé de fusionner leurs deux partis pour créer un grand parti, une forte majorité en soutien au président Chirac. Sauf que il y a des gens à l'UDF à qui ça plaisait pas. Il y a des gens à l'UDF qui étaient contre cette évolution de l'UDF. Ils ne voulaient pas que l'UDF soit aspiré par le RPR, il ne voulait pas que le centre français disparaisse dans le RPR et devienne l'UMP là. Et cette personne en l'occurrence, c'est François Bayrou. François Bayrou, c'était le gars qui s'est battu pour continuer à ce qu'existe en France un centre indépendant. Et un centre indépendant, ça veut dire quoi? Ça veut dire un centre qui n'a pas vocation à faire alliance tout le temps avec la droite et la gauche, qui a vocation à exister par lui-même. Donc, François Bayrou, il a vu tous ses copains de l'UDF se barrer, rejoindre l'UMP, obtenir des postes au gouvernement, au parlement, au Sénat et tout, pendant qu'il disait à leurs copains Bayrou, bah tiens, tu vois, t'as l'air con maintenant avec ton centre indépendant, espèce de tocard. T'aurais dû venir avec nous. Et François Bayrou, il disait non, 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 c'est mort. Moi, je veux pas. Je veux rester fidèle à mes idées. Et mes idées, elles sont. Moi, je vais pas faire alliance avec la droite, avec les Chiraciens, c'est pas mon délire, etc. En 2007, François Bayrou a fait une très bonne campagne présidentielle. Je ne sais plus quel était son score à la fin. Il n'était pas monté jusqu'à 16 ou 17% au premier tour. En gros, en 2007, François Bayrou, il a réussi à... Ouais, c'est ça, 17%. 17-18, enfin dans ces eaux-là. C'était un très gros score. Hein. C'était un très gros score. C'était un peu la revanche de François Bayrou. Puisque certes, Nicolas Sarkozy était élu président de la République. Mais François Bayrou, il a réussi avec ses 17%, à incarner une famille politique importante. Des gens qui ne voulaient pas de Nicolas Sarkozy, qui ne voulaient pas non plus de Ségolène Royal. Et il y avait quand même 17% des gens qui ont voté pour François Bayrou. Et si vous regardez le score Si vous regardez le score de France, si vous regardez la campagne qu'a fait François Bayrou en 2007, si vous écoutez ses propositions, son programme, sa posture, etc., c'était vraiment, littéralement, Macron avec 10 ans d'avance. C'était assez spectaculaire. Moi, je me souviens, j'en parlais avec des potes en 2017, en 2016, 2017, là, quand Macron a créé son parti En Marche. Avec des potes, on se disait, putain, mais Macron, c'est vraiment Bayrou. C'est vraiment le programme de Bayrou, quoi. C'est exactement ça, c'est le programme de Bayrou. Il y a deux, trois marottes sur lesquelles Macron appuyait moins que Bayrou. Mais c'était vraiment le progressisme, le dépassement des clivages, l'Europe, la maîtrise des dépenses publiques, la lutte contre l'endettement, etc. Bon, Bayrou, il allait jusqu'à proposer la règle d'or et tout, donc, mais un peu plus tard. Donc voilà, bref. Donc je reviens sur François Bayrou qui réussit son pari quelques années après la création donc, de l'UMP. Il a créé son parti à lui qui s'appelle le Modem. Donc c'est le parti du centre indépendant qui tac 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 a fait son bonhomme de chemin. François Bayrou s'est représenté à la présidentielle en 2012. Et là par contre il a fait un score un peu plus décevant. Je me souviens plus. Il a fait 9%. Il était en dessous de la barre des 10% et Jean-Luc Mélenchon lui est passé devant. Jean-Luc Mélenchon en 2012 a fait 11%. Donc Bayrou l'a étiré un peu la tronche. C'est-à-dire qu'il se disait, putain, en 5 ans, je suis passé de 17-18 à 9%, c'est pas top. Et en 2017, du coup, se posait la question de savoir qu'est-ce que je fais. Et en 2017, bah, comme vous le savez, il y a un certain Emmanuel Macron qui a dégainé son parti En Marche, qui a proposé sa candidature. Et François Bayrou, il s'est dit, est-ce que j'ai intérêt à me présenter moi encore une fois au risque de refaire 9%? Ou est-ce que j'ai pas plutôt intérêt à m'allier avec ce jeune mec-là, Emmanuel Macron, faire alliance avec lui apporter mes voix, mon soutien, mon parti, sa structure, son savoir-faire et tout? Pour qu'il gagne grâce à moi et que je négocie avec lui. Et c'est exactement ce qu'il a fait, et comme vous le savez, ça a marché. Emmanuel Macron a été élu président de la République, en échange de quoi le Modem a négocié avec En Marche des places au gouvernement et des places au Parlement pour avoir un groupe. Et pour la première fois depuis la création du Modem, le Modem avait un groupe à l'Assemblée nationale. Moi, je me souviens de l'époque où le Modem avait que deux députés, c'était Marielle de Sarnez et François Bayrou, ils étaient tout seuls en haut de l'hémicycle, là, tout le monde s'en foutait d'eux. Vraiment, les mecs, ils n'existaient pas, quoi. Le modem n'existait pas. Ils vivaient leur vie, mais ils étaient que deux, quoi. Ils étaient trois avec Jean Lassalle, c'est vrai. Il y avait Jean Lassalle qui était au modem aussi. Ils étaient trois. Et donc, François Bayrou, il a obtenu. Alors, certes, il n'est pas devenu président de la République, mais son parti n'a jamais été aussi puissant. Il fait la pluie et le beau temps avec Emmanuel Macron sur le programme présidentiel. Il est un visiteur du soir régulier à l'Élysée. Il a obtenu le ministère de la Justice. Il a obtenu des places pour les siens dans la majorité. Voilà. Pourquoi on retrouve Giscard sur les cartes d'adhérents de l'UDI et pas du MoDem? C'est pas le second qui est l'héritier de l'UDF. Bah, c'est parce que c'est l'UDI qui aujourd'hui se revendique plutôt de l'héritage de Giscard plus que le MoDem. Parce que comme c'était l'UDF qui était l'héritier de Giscard, à partir du moment où l'UDF est mort, bah le Modem il est parti de son côté et l'UDI ils ont essayé de dire non, mais c'est nous les Giscardiens. Mais bon, ça parle plus à personne Giscard, donc on s'en branle. Donc voilà. Donc François Bayrou, c'est l'exemple intéressant de quand vous voulez faire gagner vos idées, est-ce que vous êtes prêt à retirer votre candidature pour négocier plus de poids? Et Bayrou, c'est un bon exemple, c'est l'exemple d'un pari réussi. Ça sert à quoi d'être candidat et de faire 9% et d'avoir zéro député quand on peut ne pas être candidat et devenir ministre et avoir 50 députés et peser dans les discussions, dans les négociations, etc., 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 etc. Voilà. Où est la cohérence dans le fait de virer Bayrou pour une mise en examen et Dupond-Moretti? Hein? Ah, mais non, c'était différent, c'était dans le cadre des assistants parlementaires du Parlement européen. C'était autre chose. Je radote, mais à la base, il soutenait Juppé avant Macron en 2017. C'est vrai, oui, c'est vrai, t'as raison. Oui, c'est vrai, t'as raison. Bayrou est ministre? Non, il l'est plus maintenant. Enfin, si, si, il est redevenu. Si, si, il est redevenu. Il avait été, au début du gouvernement, en 2017, il avait été nommé ministre de la Justice. Il avait démissionné du ministère de la Justice. Non, 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 attends, je confonds. Si? Non. Oui, c'était bien la justice au début. Il avait quitté, il avait démissionné de son poste de ministre parce qu'il y avait l'affaire des emplois fictifs du Parlement européen qui avait éclaté. Il attendait du coup d'avoir un jugement. Il a été condamné ou pas, je me souviens plus. Et il est revenu en devenant commissaire au plan. Donc s'occupe de la planification. Il était à l'éducation nationale. Ah, il y a longtemps, il y a longtemps. Il était ministre de l'éducation nationale il y a longtemps, Bayrou. Non, il est toujours mis en examen. Il a pas été déféré? C'est quoi commissaire au plan? Le commissariat au plan, c'est un ancien ministère qui existait à l'époque de Gaulle, dans les années d'après-guerre, en fait, parce qu'on faisait de la planification, notamment dans le cadre du plan Marshall, au moment où il fallait reconstruire la France, après la guerre, il fallait reconstruire l'Europe, il fallait reconstruire et moderniser. Et donc il y avait un commissariat au plan, c'était les grandes époques de l'économie dirigée, c'est-à-dire que c'est l'État qui planifiait l'économie. C'était avant la vague libérale des années 80 de Thatcher, de Reagan, etc. La planification, c'était l'époque où l'État, la puissance publique, planifiait et il y avait une planification de l'économie. Donc c'était l'État qui disait la France doit extraire tant de tonnes de charbon dans les 5 prochaines années. La France doit se doter de X puissance en mégawatts d'électricité nucléaire. La France doit se doter du train le plus rapide du monde. La France doit se doter d'un avion supersonique. Voilà, c'était une espèce de grande planification, et ensuite vous démerdez, les ingénieurs travaillent et tout, on met l'argent qu'il faut. Voilà, c'était ça la planification. Et la planification, du coup, est passée de mode avec la vague du néolibéralisme et du libéralisme des années 80. Où là, il fallait faire l'inverse, il fallait arrêter de planifier, il fallait que le gouvernement arrête d'intervenir dans l'économie, il fallait laisser le marché faire. C'était la grande époque de Reagan, Thatcher, etc. Il fallait privatiser, il fallait laisser les opérateurs, le marché sait mieux que l'État comment faire les choses, etc. Et ça a donné ce que ça a donné, un fort dynamisme économique, mais creusement des inégalités, etc. Et la planification est revenue à la mode, si je puis dire, pardon, dans le contexte de la crise écologique, la crise climatique, qui fait que maintenant, la planification est à nouveau, alors que c'était un gros mot il n'y a encore pas longtemps, c'est à nouveau un truc à la mode, dont parlent les politiques de plus en plus, notamment Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a repris à son compte en 2022. Bah là, l'année dernière, hein. Il a repris à son compte le terme de planification en disant il faut planifier, ça va dans le sens de ce que veut faire Emmanuel Macron politiquement, c'est-à-dire le développement d'une autonomie stratégique française et européenne dans un monde multipolaire. Je la refais. En disant il faut planifier. Il faut planifier pour répondre à la crise climatique et à l'enjeu d'autonomisation, etc., et réindustrialiser, recréer des emplois. Il faut planifier. Donc, France 2030, nucléaire, hydrogène, voilà. Logement, rénovation des logements, etc., etc., vieillissement de la population, voilà. Donc, on a à nouveau un commissaire au plan, sauf qu'il a beaucoup moins de pouvoir que dans les années 50, hein, évidemment. Enfin, faut se rendre compte un peu de ce que c'était que la France des années 50. Hein. C'est vraiment une époque où le ministre de l'Industrie décrochait son téléphone pour parler au patron de Renault. Et il lui passait un savon, s'il voulait. Le ministre de l'Information relisait les titres du JT du soir et il les validait avant que ce soit diffusé. C'était d'un autoritarisme. Et donc voilà. Donc, on a un commissaire au plan qui s'appelle François Bayrou et qui fait de la planification, qui travaille main dans la main avec le ministère de l'Industrie, le ministère de l'Économie, l'Élysée, la préfiguration des plans d'investissement, les levées d'argent public-privé, etc., etc., etc. Voilà pourquoi voilà le retour à la mode de la planification. C'est quoi la règle d'or? La règle d'or, c'est un principe que tu peux écrire si tu veux dans la Constitution, ou que tu peux écrire dans un texte fondateur de ce que tu veux, qui interdit les déficits. Qui interdit les déficits. La règle d'or, c'est ce que proposait François Bayrou, je me souviens, en 2008. Il proposait d'écrire dans la Constitution que l'État n'a pas le droit de dépenser plus d'argent que ce qu'il fait rentrer d'argent. En vrai, ça veut dire donc interdit de faire des déficits. L'État n'a pas le droit d'être en déficit. L'État n'a pas le droit d'être en déficit. Il doit présenter des budgets à l'équilibre. Donc si les gouvernants veulent dépenser plus d'argent, ils doivent lever plus d'impôts. Et s'ils veulent baisser les impôts, ils doivent trouver des marges de manœuvre, etc. Alors, là, je vous fais la version vulgarisée parce qu'en réalité, sinon quoi? Ah bah sinon, le budget est anticonstitutionnel. Sinon, le budget est contraire à la Constitution. Ça, c'est la version vulgarisée que je vous ai faite. En réalité, il proposait un déficit maximal de 3% de déficit. C'est tout petit, 3% de déficit. Hein. C'est pas énorme. Enfin, 3% de déficit, c'est tout petit. Oui, c'est pas énorme. 3% de déficit, c'est ce qui était imposé avant le Covid par les règles de discipline budgétaire européenne. Mais la France ne le respectait pas. La France était en déficit excessif. Et finalement, là, on est monté à 6%, je crois, de déficit en 2020, avec le Covid et tout. Bref, peu importe. La règle d'or, ça existe dans les collectivités locales. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais une mairie, un département ou une région n'a pas le droit d'avoir un budget en déficit. Sauf, et c'est un sauf important, sauf pour les budgets d'investissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre mairie doit avoir un budget de fonctionnement, donc pour faire tourner la boutique, les fonctionnaires de la mairie, les services municipaux. La mairie a l'obligation de financer son fonctionnement. Il n'a pas le droit de le faire à crédit. Donc la mairie est obligée de s'adapter à combien d'argent elle a de rentrée fiscale. De rentrée d'argent, pas que fiscale. Enfin, bref, de rentrée d'argent. Donc elle doit être à l'équilibre sur sa part fonctionnement. Mais par contre, pour ce qui est des investissements, les collectivités locales ont le droit de s'endetter. Dans des cadres précis et des règles précises, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais voilà. Donc là, du coup, l'idée de François Bayrou, c'était de faire pareil pour l'État, de dire l'État a le droit. L'État n'a pas le droit pour son fonctionnement de vivre à crédit. En revanche, l'État a le droit éventuellement de s'endetter si c'est pour investir, créer un nouveau barrage hydraulique, un nouveau truc machin et tout machin. Tu votes un budget à l'équilibre, après son exécution. Après, pour l'exécution du budget, c'est autre chose. Ouais. Règle très bien respectée par Balkany Patrick. Ouais, après, c'est l'endettement des collectivités locales, ça dépend des types de crédits qui sont signés. Je crois pas que Balkany il ait signé des crédits revolving ou des trucs chelous, des trucs à taux variable, parce que ça a été le cas, je crois, pour certaines mairies, la mairie de Lille et tout. Enfin, il y a des mairies qui sont dans la merde. Je crois que la dette de Balkany, la dette de Levallois, elle est tranquille, hein. Il y a tellement de contribuables à Levallois, ils ont tellement de pognon que ils vont leur rembourser hein, la dette. Ça prendra du temps, mais je crois. Hein. Des crédits à taux variable en francs suisses, des trucs bien toxiques. Ouais. Et la dette de Paris, par contre. Non, c'est pareil pour la dette de Paris. Hein. Paris, c'est 2 millions d'habitants, c'est 9 millions d'euros de budget. C'est 9 milliards d'euros de budget. Paris se développe énormément, il y a de plus en plus de rentrées d'argent, c'est la capitale du pays, il y a une activité économique énorme. C'est pas une dette dangereuse, hein. C'est quoi le problème avec la dette? Qu'est-ce qui empêche un pays de s'endetter comme il veut? Alors, c'est une question de point de vue. C'est une question de point de vue. Est-ce que ça pose un problème de s'endetter? Le problème, c'est que ça dépend pourquoi tu t'endettes. C'est ce que. Comment dire? Mais c'est pareil pour. En fait, c'est. Tout n'est pas comparable. Moi, je suis le premier à vous dire, vous ne pouvez pas comparer une entreprise ou un ménage et un État, c'est pas pareil, etc. Il y a quand même des trucs qui sont similaires. C'est-à-dire qu'il y a une dette qui est dangereuse parce que tu risques de ne pas réussir à la rembourser, et il y a des dettes qui ne sont pas dangereuses parce que tu es quasi sûr d'y arriver, et c'est une facilité de trésorerie, ça va le faire. Prenez, je sais pas, prenez un restaurant. Un restaurant qui est dans un quartier. Le patron du restaurant va aller emprunter de l'argent parce qu'il veut agrandir sa salle dans son restaurant. Donc il veut faire des travaux pour agrandir sa salle pour augmenter son nombre de couverts de 50%. Et il va acheter aussi un nouveau four, tant qu'à faire, pour augmenter le nombre d'assiettes. Il se trouve que dans le quartier à côté de son restaurant, il y a un nouvel espace qui va bientôt ouvrir avec plein de magasins, plein d'habitations, etc. Le quartier, a priori, va avoir un boom économique, de plus en plus de clients, etc. Là, franchement, le banquier, il n'y a aucun problème à prêter l'argent au restaurateur. Hein, ça va, il va rembourser. C'est assez sûr. Son restaurant va, a priori, augmenter son chiffre d'affaires, puisqu'il aura plus de clients, grâce à l'emprunt, puisqu'il aura ouvert une grande salle. À l'inverse, un restaurateur qui veut aller emprunter de l'argent, qui habite dans un quartier dans lequel il y a une usine qui va fermer, il y a des logements qui vont être en travaux pendant 10 ans. La perspective économique du quartier est en déclin. Là, la dette, c'est chaud, hein. Est-ce que tu es sûr que tu auras les moyens de la rembourser et tout? Et bah pour un État, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire une dette, ça doit se regarder sous forme dynamique dans les prévisions et dans la capacité du pays à la rembourser. Un pays qui s'endette, mais qui est en croissance et qui a des bonnes perspectives de croissance, a priori, ça devrait aller. D'ailleurs, en général, la dette n'est pas très chère, les prêteurs sont prêts à prêter. Oui, tu as confiance dans la capacité du pays à rembourser ta dette. Tu as aussi la crédibilité de la signature, comme on dit. La signature de la France, c'est une des meilleures signatures du monde, parce que quand l'État français emprunte, il rembourse. La France n'a pas fait défaut depuis des siècles. Le mec qui prête de l'argent à la France, t'inquiète, la France va te la rembourser. Il y a d'autres pays, c'est moins sûr. Il y a d'autres pays. Voilà, il y a des gens qui ont prêté qui n'ont jamais revu leur argent. Donc là, c'est sûr, t'inquiète que les taux d'intérêt s'envolent, juste parce que bah, j'ai pas trop confiance, hein. Donc voilà. Ouais, genre l'Argentine, la Grèce, voilà, il y a des pays où ça a été chaud, quoi. Il a fallu renégocier les dettes et tout. Donc voilà, donc c'est quoi le problème vis-à-vis de la dette? Soit il y a le côté bombe à retardement où tu perds tout et tu t'empêches de réemprunter plus tard. Ça, c'est le risque. Et surtout si ton fonctionnement est endetté. Comment dire? Je vais essayer de trouver une image pour vous expliquer pourquoi être endetté pour son fonctionnement, c'est plus chaud que d'être endetté pour son investissement. Ce que je vous ai donné tout à l'heure comme image pour un restaurant qui veut élargir sa salle, c'est un investissement. C'est l'argent que tu vas me prêter va servir à me donner les moyens de te rembourser. Je vais élargir mon restaurant pour avoir plus de chiffre d'affaires, donc pour te rembourser. Donc tu fais des calculs et tout, tu montres, tu arrives devant ton banquier en lui montrant les chiffres, en disant, regarde, j'ai bien calculé. Si mes prévisions sont bonnes, grâce à ton prêt, je vais pouvoir te rembourser. Ça, c'est ce qu'on appelle un investissement. Donc c'est plutôt cool. C'est a priori, tu donnes les moyens. Voilà. En revanche, pour ton fonctionnement, bah, s'endetter pour son fonctionnement, ça devient un problème dès lors que tu vis au-dessus de tes moyens. C'est un peu comme toi. T'as 1000 euros de salaire par mois et tu dépenses chaque mois 1500 euros pour manger, te loger et tes loisirs, etc. Bah, t'es en déficit de 500 balles par mois, ton banquier, il y a un moment, il va dire, écoute, je suis désolé, mais enfin, tu gagnes que 1000. Tu dépenses trop chaque mois, en fait, t'as un problème structurel là. Là, c'est pas bon, ça peut pas durer. Je vais arrêter de te prêter de l'argent parce que je vois pas comment tu vas continuer à me le rembourser. Et bah, ça peut être pareil pour un État. Un État. Qui s'endette et qui continue à s'endetter pour fonctionner, il vit au-dessus de ses moyens. Alors il peut bénéficier de sa croissance économique pour rassurer tout le monde et dire que finalement on peut faire rouler la dette, etc. Il peut aussi emprunter de l'argent pour faire face à une crise conjoncturel. En gros, c'est un accident. On a un an ou deux où ça va être la merde à cause, par exemple, du Covid. Mais en vrai, ça va, le pays va bien, l'économie mondiale est porteuse, ça va le faire et tout. Typiquement, le Covid, c'était un accident de parcours. Et puis, t'as pire que pire, c'est qu'au fur et à mesure que ta dette augmente, pour un État ou pour une entreprise ou pour un ménage, c'est pareil, au fur et à mesure que ta dette en demande, tu commences à t'endetter, à emprunter de l'argent pour rembourser les gens à qui tu avais emprunté de l'argent précédemment. Et ça, on appelle ça un surendettement. Tu t'endettes pour rembourser. Et là, ça, c'est en général, c'est pas très très bon. On appelle ça le poids de la dette, les intérêts de la dette, etc., etc., etc. T'en es sûr que c'est juste un accident, le Covid? Oh bah écoute, ouais, on a 6% de croissance, là j'ai envie de te dire. Voilà. Donc l'économie mondiale a subi un coup d'arrêt en 2022, en 2020-2021. Mais là, l'année 2022, semble-t-il que, en tout cas pour la France, c'est bien reparti, quoi. Donc ça va, enfin, voilà, on a eu un accident, c'est pas grave. Donc ça arrive, hein, un coup dur. Donc voilà. Et puis par ailleurs, tu as aussi un enjeu. Alors ça, c'est des arguments de ceux qui disent qu'il y a un problème avec la dette. C'est que tu as aussi un enjeu de souveraineté. C'est un enjeu de souveraineté parce que plus tu t'endettes. Plus tu as besoin qu'on te prête de l'argent pour continuer à fonctionner. En fait, tu deviens dépendant. Tu deviens dépendant. Tu deviens dépendant de qui? Bah, des gens qui te prêtent du pognon. Et les gens qui te prêtent du pognon, c'est qui? Bah, c'est pas toujours tes potes, hein. C'est les marchés financiers, c'est les fonds de pension, c'est les banques, c'est d'autres pays. Ah ouf, quoi. Alors ça dépend qui détient ta dette, ça dépend auprès de qui t'embauche, ça dépend auprès de qui t'emprunte. Les Japonais, par exemple, sont empruntés. Le Japon est endetté auprès des Japonais. Les Japonais prêtent de l'argent au Japon. C'est moins gênant que si c'était la Chine qui détenait 60% de la dette, etc. Donc il y a aussi un des arguments des gens qui disent qu'il faut réduire les déficits et l'endettement, c'est de dire, mais en fait, on dépend de marchés financiers qui, demain, pour une raison qu'on ignore, peut décider, ou pour un truc où on n'a rien fait. D'essayer de nous claquer entre les doigts, on aura l'air con. Donc la meilleure des souverainetés, c'est de commencer par financer soi-même sa propre vie. Là, t'es un pays souverain. Ton économie finance ton État. Donc, quand c'est des fonds de pension à l'autre bout du pays qui décident de s'ils te prêtent ou pas et à quel taux, bah, t'as l'air con. Tu demandes tous les jours. La France emprunte de l'argent tous les jours et demande poliment à des prêteurs s'ils peuvent bien lui prêter de l'argent. Donc voilà. Ça existe encore, les bons du Trésor chez nous, bien sûr. Vous pouvez prêter de l'argent à la France. C'est un très bon placement, d'ailleurs. Ça s'appelle les bons du Trésor. Et il y a des pays sans dette. Ah, il y a des pays qui n'ont pas de dette, hein. Ah oui. Il y a des pays qui ne sont pas endettés. Qui, alors, pour le coup, n'ont aucun problème à s'endetter. Alors là, les mecs ont tellement pas de problème de fric que le jour où ils en demandent, on leur en prête direct. Aucune chance que les mecs te le remboursent pas, hein. C'est un très bon placement, c'est ironique. Ah non, c'est pas ironique. Ah non, c'est pas ironique. Les bons du trésor, c'est un placement. Je vais te retrouver ça, on en est où aujourd'hui sur les bons du trésor? Le 2 janvier 2023. Hop. Voilà. On est sur le site de la Banque de France. Et on te donne les taux indicatifs des bons du trésor et des obligations associable au trésor. Si tu prends des bons des trésors à 30 ans, dans 30 ans, tu auras 3%. Alors attention, quand je dis que c'est un bon placement, je dis pas que ça va vous rapporter beaucoup de pognon, hein. Les bons du trésor, c'est pas ce qui rapporte le plus. Par contre, c'est un des trucs les plus sûrs. C'est un des trucs les plus sûrs. C'est inférieur à l'inflation. Ah oui, parce que là, en ce moment, on a une inflation vénère, ouais. C'est 3% par an pendant 30 ans, voilà. Mais il y a très peu de chances que la France te rembourse pas. Après, 30 ans, c'est beaucoup, hein. 30 ans, c'est beaucoup. Mais vous pouvez aussi faire un mois si vous voulez. Ça vous amuse. Oula, merde, pardon. 2,9% à 3 mois, c'est OK. Et en plus, là, je me suis trompé parce que je regardais au 27 décembre. Parce qu'en plus, ça change tous les jours. Là, si vous achetez des bons du Trésor aujourd'hui, à 9 mois, vous êtes à 2,7, ouais. Oui, c'est honnête. Il y a aussi la différence entre dette et déficit. Ah oui, j'ai pas expliqué ça, pardon, effectivement. Le déficit, c'est la différence entre ce qu'on fait rentrer dans la caisse et ce qu'on sort de la caisse. La déficit d'une entreprise, bah, c'est combien j'ai vendu de baguettes aujourd'hui et combien ça m'a coûté de les fabriquer, les baguettes. Donc le déficit, c'est l'inverse d'un bénéfice, vous avez compris? Et pour un État, c'est pareil, avec les rentrées d'argent et les sorties d'argent. Donc le budget a un déficit. Enfin, pas forcément, mais il se trouve que nous, on a des budgets en déficit. C'est quoi la différence entre ce qu'on fait rentrer d'argent dans les caisses de l'État et ce que l'État va dépenser d'argent dans l'année? C'est comme ça qu'on mesure le déficit. Et on parle de pourcentage de déficit. Et c'est quoi la différence entre le déficit et la dette? Bah, c'est que pour combler le déficit, comment on fait? Bah, on emprunte. Donc le déficit crée de la dette. Voilà, c'est ça. Le déficit crée de la dette. Vous ne pouvez pas ne pas payer les fonctionnaires. Merci Florent. Pourquoi est-ce que c'est un placement sûr? Ce qu'on appelle un placement sûr, dans le jargon de la finance, c'est un endroit où tu vas mettre ton argent et dans lequel tu as de très très fortes chances de retrouver ton argent à la fin avec le pourcentage de bénéfices qui est annoncé, le taux de crédit qui est annoncé. Il y a un placement, il y a des placements qui ont la réputation d'être sûrs. Acheter de l'or, acheter des bons du Trésor, acheter de l'euro, ça dépend des périodes, mais bon, en général, voilà. Après, il y a des placements qui sont pas sûrs, mais qui sont très lucratifs. Par exemple, enfin, qui peuvent être lucratifs. Attention, justement, c'est risqué, mais ça rapporte plein de fric. Qu'est-ce que vous préférez? Un truc sécure qui rapporte pas beaucoup, mais qui au moins est sécure, ou un truc qui rapporte potentiellement énormément, mais si tu as de la chance. Et bah, typiquement, le Bitcoin, les startups. Voilà. Et bah, c'est chacun vit sa vie comme il veut. Voilà. Pourquoi l'argument de la dette était central dans le programme de Fillon en 2017, mais en 2022, plus du tout? On a beaucoup marché cet argument en plus. Alors, la raison à ça, c'est que François Fillon, François Bayrou et d'autres font partie des gens qui défendent l'idée que la dette est très mauvaise en soi, qu'il faut absolument lutter contre la dette et l'endettement, que c'est très négatif pour la France, que ça empêche la France de grandir. Enfin voilà, qu'il faut absolument réduire la dette et les déficits. Et que les déficits deviennent insupportables, et que le poids de la dette, rien que la charge de la dette devient de plus en plus lourde, que chaque année on emprunte pour rembourser les intérêts de la dette, etc. On vit au-dessus de nos moyens, il faut régler le problème, c'est mentir aux Français et c'est se bercer d'illusions que de continuer à dire on va continuer à payer des fonctionnaires en permanence, alors qu'en fait il n'y a plus d'argent, que la croissance est trop molle, etc. Bref, c'est un point de vue économique, d'orthodoxie, en disant on boostera notre économie quand on réussira à arrêter d'avoir de la dette, etc. Donc, en 2017, c'était encore un argument central de François Fillon qui critiquait la gestion des socialistes de François Hollande en disant les socialistes ont encore fait une politique de gauchistes comme d'habitude, ils ont encore fait tourner Ils ont encore dépensé l'argent de l'État à tout va, ils ont créé des postes et tout machin, 70 000 postes dans l'éducation nationale, au secours, on n'a pas les moyens. Enfin, bref. Donc ça, c'était l'argumentaire de François Fillon. Et qu'est-ce qui a changé entre 2017 et 2022? Bah, ce qui a changé, c'est qu'il y a eu le Covid. Et qu'est-ce que ça a changé, le Covid? Ça a changé le fait que tous les pays développés du monde se sont retrouvés à subir au même moment une crise économique. Et une crise économique qui est subie de la même manière par tous les autres pays, c'est moins grave qu'une crise économique que tu es tout seul à subir dans ton coin. Et pour faire face au Covid, les pays européens ont décidé de faire tourner, de faire sauter le verrou de faire sauter le verrou de la discipline budgétaire, de ne plus s'empêcher d'avoir de déficit, de creuser volontairement le déficit, et même plus d'emprunter, l'Union européenne a emprunté de l'argent pour aider les pays à mettre en place des plans de relance. Donc la France, les pays riches en Europe, l'Allemagne, la France, les pays du Nord, etc., ont mis leur crédibilité au service des pays du Sud qui en avaient besoin pour redémarrer tous ensemble, etc. Donc on s'est retrouvé dans une période en 2020, de 2020 à 2000, à 2023 aujourd'hui, où en fait, bah, le déficit n'était plus vraiment un problème. Même de la part, même pour ceux pour qui ça l'était avant. Donc c'est pour ça qu'effectivement, en la 2022, je suis d'accord avec toi, tu regardes les programmes politiques de 2022. Bon, bah on était dans une période où le pognon, ça allait plutôt bien, donc voilà. Alors, bon, ça n'empêchait pas les candidats de dire il faudra retrouver une discipline budgétaire, attention, c'est pas éternel, hein, la planche à billets, youpla-boum, le pognon, le déficit à 5% et tout. Non, c'est pas. Voilà, d'ailleurs, si tu écoutes aujourd'hui François Bayrou, c'est exactement ce qu'il va te dire. Emmanuel Macron l'a redit encore récemment. Hein. Voilà. Pour l'instant, on est en mode plan de relance. On investit beaucoup d'argent pour l'hydrogène, pour la transition écologique, pour le nucléaire, machin, rénovation des bâtiments et tout. On y va, on met de l'argent, c'est cool. On a l'impression qu'il y a du pognon. On ouvre le robinet, il y a de l'or qui coule, c'est cool. Mais ce que disent tous ces gens-là, c'est attention, c'est pas éternel. Et un jour viendra, il va bien falloir revenir. Il faut pas qu'on s'habitue à être biberonné à l'argent facile. Voilà. On en discute. C'est un débat public. C'est quoi la balance commerciale? Alors la balance commerciale, c'est un lien direct avec ce que je viens de dire, mais ce qu'on appelle la balance commerciale, c'est la différence entre ce que notre pays vend à l'étranger et ce que notre pays achète à l'étranger. Et donc, tu as des balances commerciales bénéficiaires et des balances commerciales déficitaires. Généralement, on dit qu'un pays qui a une balance commerciale bénéficiaire est un pays en bonne santé, parce que ça veut dire qu'on. Faut inviter Jules de Réca. J'ai déjà fait ça, Gilles, je l'ai déjà invité. C'est un très bon copain. J'aime beaucoup ce que fait Gilles. La chaîne Eureka, si vous ne connaissez pas, c'est une chaîne de vulgarisation économique qui vous expliquera bien mieux que moi tout ce que je suis en train de vous expliquer. Il a fait des super vidéos là-dessus sur la dette, le déficit, l'emprunt, etc. Il a fait une série sur le prix de l'électricité qui est vachement bien, ouais. Ouais. Je vais vous mettre le lien dans le chat, la chaîne de Ricard. Il a écrit un bouquin aussi, attends, je vais vous le montrer. Voilà, c'est une super vulgarisation économique. Économie, finance. Et donc voilà, donc qu'est-ce que je voulais dire? Donc balance commerciale, bah, ça dépend des pays. Il y a des pays qui achètent beaucoup à l'étranger, de la nourriture, des ressources, des matières premières, et des pays qui n'ont pas de pétrole. Hein. Pas de pétrole, pas de ressources minières, pas de métaux rares et tout. Et puis après, il y a ce que tu vends à l'étranger. Il y a ce que tu vends à l'étranger. Nous, on vend des Airbus, on vend du luxe, on exporte de la bouffe. Des armes. Du vin. Du tourisme, ouais. Des services. Ouais, les services, ça compte, bien sûr, les services, ça compte, évidemment. Donc voilà. Et donc tu fais la différence entre les deux. Tu regardes à la fin de l'année combien on a acheté de trucs à l'étranger et combien on a vendu de trucs à l'étranger. Quand je dis on, c'est l'ensemble de l'économie, hein. C'est pas l'État, hein. C'est toutes les entreprises, tout le monde. Et là, tu as ta balance commerciale. De quoi pas dans la balance commerciale? Qu'est-ce qu'on compte pas dans la balance commerciale? Il y a peut-être des trucs qu'on compte pas, hein. J'ai peut-être dit des trucs qui sont pas comptés. Est-ce que la France peut vivre en autarcie? Absolument pas. Enfin, ça dépend de ce que tu appelles vivre. Ça dépend ce que tu appelles vivre, mais la France a absolument pas les moyens de vivre en autarcie. Hein. C'est quoi l'autarcie? L'autarcie, c'est couper du monde. Et tout seul, sans échange. Tu fais une fermeture de frontières stricte. Autosuffisant, ouais, on peut dire ça. Est-ce que la France est autosuffisant? La réponse est non. On n'a pas de pétrole. Alors vraiment très très peu. On n'a pas de gaz, on n'a pas de minerais pour nos centrales nucléaires. Non, non. Aucun pays en Europe ne peut vivre en autarcie. Oui, on pourrait même argumenter qu'aucun pays au monde ne peut vivre en autarcie, hein. La Corée du Nord, ils ont besoin d'importer de la Chine plein de trucs. La Russie, bah, les sanctions financières sont quand même vraiment galères. Les USA, ils ont complètement besoin de l'Asie, hein. Les USA. Après, il y a peut-être des îles. Peut-être que le caractère insulaire peut aider, je sais pas. Il y a peut-être des îles, effectivement. Je sais pas où dans le Pacifique qui peuvent dire qu'elles vivent en autarcie, peut-être. Peut-être, peut-être, peut-être. C'est possible. C'est pire encore pour beaucoup d'îles, ils importent énormément. Ouais, remarque, tu me diras, ouais. Oui, c'est vrai en plus. L'autarcie, c'est le même suffixe que archi. Non, c'est arci, c'est pas archi. Cuba pendant l'embargo. Ah bah non. Ah bah non. Justement, c'est tout le drame de Cuba. Cuba, ils ont vécu pendant des années parce qu'ils avaient des bateaux qui venaient du RSS quasiment tous les jours pour leur livrer tout ce dont ils avaient besoin. Cuba, heureusement qu'ils exportaient du sucre et que les soviétiques leur achetaient à très bon prix, trop bon prix. Non, 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 Cuba, c'est terrible. Est-ce que tu connais des besoins fondamentaux d'un pays dans lequel la France excelle? Genre gaz, électricité. Je ne sais pas ce que tu appelles besoins fondamentaux. Les ressources? En ressources? Non, je ne saurais pas te dire. J'en sais rien, le bois. Et encore, on importe pas mal. L'agriculture, c'est une ressource, ça? Ou c'est les produits transformés que vous comptez? Je sais pas. Ouais. La pêche. Le streaming d'actualité politique, je crois qu'on est assez bon là-dedans. Est-ce que le fromage c'est un besoin fondamental? Ça dépend pour qui. Le football, on est assez bon. Non, mais blague à part, non, en ressources, la France, très peu de pétrole, les mines, c'est. Si tu comptes les départements, les collectivités, les territoires d'outre-mer, ouais, un peu. C'est pas fou, quoi. Le cobalt, ouais. Non, on a d'autres avantages. La France est compétitivement un pays puissant hein, dans le monde, mais pour d'autres raisons. La langue, plus de 300 millions de locuteurs dans le monde, la culture, la diplomatie, l'influence politique, l'armée. Le tourisme, alors après si on parle d'industrie, bah, le tourisme, l'aéronautique, le spatial, alors, pas tout seul hein, avec nos voisins européens, mais bon, la santé, l'éducation, le luxe, la pétrochimie, ouais. L'automobile. Après, quand je dis ça, je suis pas en train de vous dire qu'on est les meilleurs et qu'on écrase tout le monde. Hein. On fait partie des pays qui ont des industries, etc., de pointe, et on est rattrapé de plus en plus par ce qu'on appelait les pays émergents. Qu'un jour, il va falloir qu'on appelle d'appeler pays émergents parce qu'ils ont fini d'émerger. Mais donc, notamment la Chine. La Chine est en train de rattraper son retard sur ce sujet-là. La Chine, le Brésil, l'Inde et tout. Mais voilà. Donc voilà. Donc oui, non, la France est un pays qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'influence. L'expression était celle de. C'était qui? Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, qui disait: La France est une puissance moyenne de portée mondiale. La phrase est pas mal. La France est une puissance moyenne. Parce qu'on n'est pas au niveau des géants que sont la Chine, les États-Unis, le Japon, etc. Mais on n'est pas non plus une puissance moyenne, genre bof, dans le bas du tableau. Non, non, la France a une influence, a une portée, paradoxalement, bien plus importante que notre réelle puissance. Et ça, c'est grâce à notre armée, notre diplomatie, notre langue, l'influence politique aussi. La puissance moyenne, bof, c'est l'Angleterre. Ah non, le Royaume-Uni, c'est une grande puissance. Non, non, le Royaume-Uni, c'est. Ça tabasse pas mal. Hein. Oui, notre histoire. Notre histoire, c'est une ancienne. Enfin, la France est une ancienne puissance coloniale, qui a gardé de son aspect colonial aussi une puissance diplomatique. Et des relations pas toujours claires avec ses anciennes colonies. Notre romantisme. Le French kiss. La France est devant la Grande-Bretagne aujourd'hui. Je sais pas, ça dépend en quoi. Je sais pas. Je pense pas. Ouais, notre modèle social aussi. Non, non, mais quand je dis l'influence politique, l'influence philosophique, etc., c'est pas à négliger non plus, hein. Le côté, on se moque souvent du côté droit de l'hommiste, donneur de leçons des Français. Pour autant, la France est un pays qui a une place particulière dans l'esprit de beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens ailleurs dans le monde. C'est ce qu'expliquait, je sais plus qui, au moment des attentats de Charlie Hebdo, le 9 janvier, quand un journal satirique est visé par un attentat sur le territoire français, rappelez-vous, le 11 janvier, il y a des chefs d'État du monde entier qui sont venus apporter leur soutien en étant là. Mais il y avait vraiment des chefs d'État, mais du monde entier. Et je ne sais plus qui disait que c'est pas tous les pays du monde qui sont capables de faire ça. Enfin, qui sont capables. C'est pas tous les pays du monde qui, lorsqu'ils sont touchés profondément dans leurs valeurs comme ça, déclenchent une mobilisation mondiale qui se manifeste par les chefs d'État, mais voilà. Il y a un côté inspirant, il y a un côté la France, c'est la France. C'est pas n'importe quel pays, la France, les droits de l'homme, la France, les droits des femmes, la France, les droits de l'enfant. La France, avec son exigence de droits de l'homme, la France dit quelque chose au monde, la France a un message, la France a une culture, la France a une langue qui est porteuse d'un certain idéal. Notre-Dame aussi, ouais, Notre-Dame aussi. Mais voilà, beaucoup de pays ont des choses comme ça. Les États-Unis, quand ils ont été frappés par le 11 septembre 2001, c'était pareil. C'est un symbole particulier de liberté, d'opportunité, etc. Les États-Unis, c'est une... Alors, je vais pas vous expliquer ce que c'est que les États-Unis, mais dans l'imaginaire, le leader du monde libre, tout à fait critiquable au demeurant, c'est pas le sujet, mais et ben voilà. La France, c'est un pays qui a un poids, qui est celui-là, qui a une voix, qui porte dans le monde, qui a sa portée. C'est pas le plus grand pays du monde, c'est pas le plus petit non plus. Une voix qui faiblit. Ça dépend dans quel domaine. Le soft power, ouais, aussi. Ouais, c'est ça, ça fait partie de ce qu'on peut appeler le soft power, ouais. Merci Trudvanger pour ton resub, merci beaucoup. Excusez-moi, je lis vos messages. Hein. Merci Lego Blue, merci à vous pour vos subs et vos resubs. Pardon de ne pas vous avoir remercié nommément chacune et chacun. Mais sachez que vous avez une place égale dans mon cœur. Je vous aime toutes et tous. Est-ce que tu as acheté des places pour les JO 2024? Ah bah, j'espère que j'aurai pas besoin d'en acheter. Hein. Moi je suis parisien, j'espère bien que je vais réussir à gratter des entrées. Non mais en vrai, je vais complètement aller voir les compétitions de skate. Ça va être trop bien. Pour toi, dans quel domaine la France devrait investir du temps et de l'énergie pour le futur? La jeunesse et la démocratie. Tu penses pas que la voix de la France dans le monde faiblit et continue à faiblir? Ah bah non, enfin ça dépend par rapport à quand, par rapport à quoi. Enfin, je veux dire, la guerre au Mali, le leadership sur la Syrie, enfin la tentative de leadership sur la Syrie, d'un point de vue diplomatique, la guerre en Ukraine, le rôle joué par la France, en coordination avec les autres pays européens. Est-ce que tu es pour la paix dans le monde? Oui. Je suis contre le fait que les enfants souffrent. Les Jeux Olympiques, ouais. Le fait qu'on soit un pays majeur de l'ensemble Europe augmente notre portée politique. Et d'autres d'ailleurs. Oui, bien sûr. La France est... Un pays fondateur de l'Union européenne, le couple franco-allemand, c'est le moteur de l'Europe. Pardon pour la banalité de ce que je suis en train de dire, mais ça aide. Un chef d'État étranger, quand il échange avec le président de la République française, il parle pas à n'importe qui. Il parle à un leader européen qui a une influence non négligeable au sein du Conseil européen. Donc c'est voilà, c'est. Quelle est l'importance d'accueillir des JO pour un pays? Bon, c'est un peu comme la Coupe du Monde, tu vois, c'est une vitrine. C'est une vitrine, c'est une vitrine de soft power, de sportive évidemment, mais voilà, ça fait briller le pays à l'étranger, ça renforce symboliquement, culturellement, le poids du pays. C'est aussi l'occasion d'investir beaucoup d'argent, ça permet de mener des travaux d'infrastructure. C'est pour ça qu'en France, on a le Grand Paris Express, par exemple, on a la métropole, on a tout un tas de quartiers en Seine-Saint-Denis qui sont dans lesquels on a injecté des millions et des millions d'euros pour les requalifier complètement. Donc ça bénéficie aussi aux populations locales. Enfin, après, ça dépend comment tu les fais, tes JO, hein. Malheureusement, comme la France est la prostituée de Babylone, elle est amenée à s'effondrer. Êtes-vous prêt? Eh ben, écoute, rentre dans le bunker en premier, on te suit. Mais ferme la porte derrière toi. Donc le sport, c'est politique? Je comprends plus rien. Non, 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 le sport, c'est pas politique. Macron, il a dit que le sport, c'était pas politique. Alors c'est pas politique le sport. Ça suffit maintenant. Si on organise les JO, c'est juste pour la beauté du sport. No joke, que penses-tu des théories collapsologiques? J'en pense rien. Enfin, je... Pourquoi il faut en penser quelque chose? L'important, c'est de participer. Non, je sais pas, les collapsos. Qu'est-ce qui devient les collapsos? C'est toujours les potes cringe du groupe. Ah bah ça. As-tu un avis sur tout et si oui, lequel? La France est quand même à l'origine des JO. Oui, pour le meilleur comme pour le pire, hein. Oh. Pierre de Coubertin, il n'a pas dit que des belles choses, hein. Le français est moins parlé dans le monde, je trouve que les gens se désintéressent de sa culture. Ayant vécu à l'étranger, je peux le remarquer. Mais je veux pas dire de bêtises, mais au contraire, on est en croissance sur le nombre de locuteurs de la langue française grâce au boom démographique des pays d'Afrique. À l'avenir, il y aura encore plus de locuteurs de français que ce qu'il y en a aujourd'hui. Alors peut-être qu'en part variable, ce sera moins que la Chine et l'Inde, c'est possible, j'en sais rien, mais non, non, non. On est... Plus en plus de Français, de gens qui parlent français, la courbe monte, hein. Ouais, le nombre de francophones augmente, ouais. Mais pour les Français, les Africains parlent pas français, that's the point. Oh non, mais on les emmerde. Il y a un moment. Il a dit quoi de Coubertin? Il a dit que les Jeux Olympiques de 1936 à Berlin étaient une formidable manière pour les Allemands de montrer la supériorité de leur race. Classique shit des années 30. Ouais, pas ouf. Pas dingue. Il était contre les... Ah oui, non, lui, les femmes qui font du sport, Coubertin, c'était pas son truc. Non, mais enfin bon, voilà. Coubertin était un homme de son époque. Misogyne, antisémite, tout ce que tu veux. Racialiste, voilà. Voilà. C'est une autre époque, jugez pas avec le prisme d'aujourd'hui. On peut quand même, enfin je, voilà, voilà, on peut quand même tirer des leçons de l'histoire. Quand même, quand même. C'était pas ouf. Y a deux, trois trucs qui étaient pas ouf. On peut juger à Nuremberg. Oui, c'est vrai. Merci French Sea Geek pour le sub offert, merci beaucoup. Commencez pas à vouloir juger Staline. Le bilan de l'Union soviétique est globalement positif. Tout est dans le globalement. Voilà. Le sport, c'est politique. Mais bien sûr que le sport, c'est politique. Et c'est très bien que ce soit politique, le sport. On va pas s'en plaindre. Les politiques, c'est pas sale. Putain, je passe mon temps à essayer d'expliquer aux gens sur Twitch que la politique, c'est pas un gros mot, que c'est pas sale, ça salit pas, c'est pas grave, on peut y toucher. Voilà. Et bah, le sport, c'est pareil, c'est pas sale. Voilà, la politique, c'est très bien que le sport soit politique. Le sport, c'est un outil de rayonnement. Le sport, c'est un outil économique. Le sport, c'est un outil de cohésion sociale, de progrès. Le sport, c'est. Voilà, c'est très bien. Le sport, ça fait reculer l'intolérance et le racisme. Le sport, ça favorise le vivre ensemble. Le sport, ça pacifie. Le sport, ça. C'est bon pour la santé. Le sport, c'est. Voilà, c'est très bien le sport. C'est très bien que ce soit politique. L'URSS était globalement bien, ok, mais on n'a pas dit pour qui. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. L'URSS, c'était globalement positif, mais pas pour tout le monde. Le sport, c'est surtout de la fantasmagorie sociétale, ça vend du rêve pour faire oublier le réel. Alors? Bon alors? Tu dis ça parce que t'as perdu ton match de foot hier soir avec tes potes. Ça m'arrive aussi d'être un peu salé, hein. Je veux pas t'en vouloir, je sais ce que c'est. On vit vraiment dans une saucisse. Faites du sport, ça ira mieux. À mon avis, tu devrais aller courir un peu. Parfois, c'est bien de s'extirper du réel. Contre la dépression, la sérotonine, c'est plutôt pas mal, hein. Voilà. Non, non, c'est plutôt recommandé. Vaxit, merci beaucoup Pac Benou, merci beaucoup. Extirpez-vous du réel, mais pas en saut en parachute. Vous savez que c'est pas nécessaire d'avoir un parachute quand on saute d'un avion. C'est juste nécessaire si vous voulez ressauter une nouvelle fois plus tard. Merci pour les 5 subs offerts au chat.
Je possède des thunes. Je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, mes affaires marchent en ce moment.
Merci beaucoup. On peut sauter d'un avion sans parachute, mais une seule fois. Ouais, c'est ça. Elle est nulle cette blague, hein, mais moi elle me fait marrer. Qu'est-ce qu'on est décevant, collectivement. On se retrouve demain en stream? Probablement un peu de Flight Simulator pour se mettre bien. Donc je vous le redis, hein, la première de Backseat ne sera pas demain. Elle sera la semaine prochaine et ce sera même une pré-première. En fait, ce sera une émission de rentrée. Voilà. C'est la rentrée des classes. On fera une émission un peu spéciale de Backseat pour vous retrouver parce qu'on a envie de vous retrouver, on a envie de se retrouver. Ce sera la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Chez qui on fait un raid? Ah bah tiens, il y a Angle Droit. Angle Droit qui parle de tabac. Ça fera le lien avec mon TikTok où j'ai percé. Vous pourrez dire à Angle Droit que j'ai percé sur le tabac sur TikTok, sur le sujet. Donc là, elle est en train de faire une libre antenne, je crois, ou un talk. Donc let's go, raid chez Flo. Des bisous à elle, soyez cool, have fun. Et on se retrouve demain. Ah ouais, j'ai fait 200 000 vues sur mon TikTok sur la politique anti-tabac. Let's go. Merci à vous, bien le bisou par chez vous, et on se retrouve demain en toute décontraction pour un nouveau stream. À bientôt. Ciao tout le monde, salut.